Bébé, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la forme?
J'ai la grosse forme, et toi?
Ouais, ça va. De mon côté aussi, ça se passe plutôt bien. Surtout que bah aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, on est en présence d'un des cadors du copywriting en France sur le podcast. Donc, je suis très heureux. Bébé, merci beaucoup d'avoir répondu présent.
C'est vraiment un plaisir. Merci pour le compliment. Cador, je sais pas, mais en tout cas, ça me fait plaisir d'être là.
Bah, si tu sais pas, pour que les gens soient directement fixés, comme dans tous les podcasts, question de début de podcast, est-ce que tu peux rapidement te présenter en quelques mots, quelques phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore?
Ouais, bien sûr. Je suis PB Poncelin, PB pour Pierre-Baptiste. Je suis un gars qui aime le comté, aime la mer, aime aller au spa et qui a besoin de beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour ça. C'est pour ça que pendant longtemps, moi d'abord, j'ai été copywriter en fait pendant à peu près 5-6 ans en tant que prestataire de service. Je travaillais avec un peu les leaders de l'industrie de la formation en ligne spécifiquement. On faisait des lancements ensemble, des lancements par email, des pages de vente, des choses comme ça. Et il y a 2-3 ans maintenant, je suis devenu aussi directement formateur et business coach pour les marketeurs et les business coachs qui veulent développer leur activité au-delà des 100 000 euros par an.
Ok, bah, c'est une présentation super exhaustive, super complète, qui fait rêver aussi. Donc, c'est super. Merci
Trop
beaucoup.
bien.
On reviendra parce que tu as dit que tu avais bossé, et ça, je le sais, vu que ça fait quelques temps que je te suis, avec des gros noms de la formation en ligne, de la sphère business en ligne en général, je crois. On y reviendra. J'ai une question d'abord qui concerne Copy Rockstar, qui est, je crois, ta structure. Et alors, pour avoir écouté les derniers podcasts que tu as fait, je crois que c'est plus à proprement parler vraiment une agence. C'est un peu
Ouais.
plus complexe que ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bien sûr, Copy Rockstar, c'est vraiment maintenant un. Alors, c'est pas à titre officiel vis-à-vis de l'État, mais c'est un organisme de formation, en fait, tout simplement. C'est plus une agence. Le côté agence, c'est juste moi, parfois, qui accepte très rarement une nouvelle prestation, mais sinon, c'est moi qui fais du consulting avec des clients. Mais maintenant, Copy Rockstar, c'est massivement de la formation pour marketeurs et formateurs.
D'accord. Et petite question, c'est quoi une rockstar du coup? Est-ce que...
Une rockstar, c'est quoi? C'est une bonne question. Une rockstar, c'est quoi? Ce sont les gens notamment sur le web, hein, les gens dans ma cible, donc ces fameux coachs et enfin ces fameux formateurs plutôt et marketeurs qui veulent se démarquer sur le marché, qui veulent devenir remarquables, qui veulent faire des choses excellentes. Et qui veulent tout péter et qui viennent chez Copy Rockstars pour ça, tout simplement.
Ça marche, ça marche, ça marche. Je comptais te poser la question dans une partie qui était plus dédiée sur le fonctionnement de Copy Rockstar, mais est-ce que
Ouais.
cette structure, quand tu prends en charge les demandes de ces fameuses rockstars, entre guillemets, donc les gens qui veulent bénéficier de tes services en copie, c'est actuellement que toi qui gères tout le copy de la structure ou alors tu as d'autres copywriters qui bossent avec toi?
Je veux dire, nous, pour nos textes de vente,
Pour vos textes de vente, ouais. Pour vos textes
c'est
de
moi qui
vente.
fais tout. C'est encore moi qui fais tout aujourd'hui.
D'accord. D'accord, ok. De toute façon, on en parlera un peu plus pendant le podcast, mais je sais que le format agence t'a pas énormément plu et que tu as dû réduire les effectifs. Et bref,
Exactement.
on aura l'occasion
Exactement.
d'en reparler un peu plus. Mais
Ok.
pour en revenir à ton profil et puis même ton parcours entrepreneurial plus précisément, est-ce que tu peux parler un petit peu de tes débuts dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu une transition, moi je le sais, hein, mais je te pose la question comme si je savais pas. Une transition salarié-entrepreneur, qu'est-ce que tu faisais avant? Comment tu as commencé? Je te laisse parler un peu de ça.
Ok. Alors avant de me lancer, moi j'étais un peu salarié, mais vraiment salarié tranquille, tu vois, pas genre je suis dans une grosse boîte et j'y vais pour 30 ans, je déchire des tickets dans un cinéma, tu vois. Donc on part pas sur une grosse carrière.
La première fois que j'entends ça, j'étais un peu salarié.
Un peu salarié. En tout cas, j'avais un CDI, waouh, un CDI, tout le monde me disait bravo, moi je me disais je m'en branle.
Ok.
Dans ce cinéma. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté au bout d'un moment le cinéma parce que je me faisais chier. Et là, de fil en aiguille, j'ai découvert, en fait, après quelques mois un petit peu à voyager et à kiffer la vie, j'ai découvert le business en ligne. À ce
Ok.
moment-là, moi, j'étais à fond dans le sport. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un business en ligne, sport, nutrition, muscu, ça va être trop bien. J'ai tenu ce business pendant à peu près 6 mois jusqu'au moment où j'ai réalisé que, bah, en fait, parler de sport, de muscu, de nutrition, ça me faisait aussi chier comme de déchirer les tickets. Et néanmoins, j'ai identifié que ce qui m'intéressait, c'était la partie marketing et partie vente. Et c'est à ce moment-là, du coup, que j'ai pivoté, que je me suis lancé comme copywriter, que j'ai pris des clients et qu'ensuite, Copy Rockstars a fini par naître.
D'accord. Avant de parler du côté copie là, que tu viens d'évoquer sur la fin, j'ai une question. C'était vers quelle année que tu bossais au cinéma pour déchirer les tickets?
J'ai fini. Putain, bonne question. Je crois que j'ai fini fin 2017.
Est-ce que c'était toi qui déchirais les tickets au MK2 de Bibliothèque François Mitterrand?
Ouais,
C'était.
t'y allais.
Ah ouais, c'est juste. Et maintenant, j'ai les souvenirs de. Je me souviens que c'était toi qui déchirais mes tickets là-bas.
Mais non, tu déconnes.
Si, mec, j'habite juste à côté, j'habite en banlieue sud parisienne, c'était un coup d'RERC, j'allais aussi dès là-bas avec mes potes. Et
Putain.
ouais, dans ma période préadolescence, c'était Pépé Poncelin qui déchirait mes tickets quand j'allais voir mes potes.
Excellent.
Putain, je suis
Merde.
mort. Donc voilà, ok,
Putain.
c'était la question que je voulais poser par rapport à
C'est
ça,
fou ça.
c'est bien ce que je pensais, c'est vraiment bien ce que je pensais. Ok. Par rapport au début de ton parcours en copie, je vais te poser des questions sur comment tu as trouvé des clients, etc. Mais comment d'abord tu as identifié que tu étais bon dans ça? Parce que c'est ton parcours, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Je vendais des formations, des programmes et du coaching dans le monde du street. Donc en
Ouais.
gros, je parlais de sport, hein, majoritairement. Et au bout d'un moment, ça m'a aussi fait chier. Et je me suis rendu compte aussi que c'était la vente dans laquelle j'avais des aspirations à progresser, etc. Comment tu t'en es rendu compte? Parce que c'est pas forcément facile quand t'es tête baissée sur un sujet, etc., quand t'es focus, de se dire, bah, attends, mais en fait, c'est cette micro-partie de mon travail qui me fait plaisir et pas l'ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé dans
Ouais.
ta tête, tu vois?
C'est vraiment venu progressivement. Le premier truc, c'était que dans ce business, Muscu Nutrition, du coup, je faisais des emails toutes les semaines. En fait,
Ok.
toutes les semaines, je faisais une vidéo YouTube et un email pour vendre la vidéo. Je m'amusais
D'accord.
beaucoup à écrire la vidéo YouTube, même si c'est là, c'est pas du copywriting, c'est création de contenu, on va dire, même s'il y a des leviers copywriting.
Bien sûr.
Et je prenais aussi beaucoup de plaisir, en fait, à faire ces emails. Et je me suis dit, mais c'est... Pourquoi je m'amuse à faire ce truc, tu vois? Et ensuite, c'est au fur et à mesure de rencontrer des entrepreneurs, d'aller à des événements, d'entendre parler de ce truc du copywriting, d'entendre parler des leviers psychologiques de vente, de me dire, mais c'est ça, en fait, qui m'intéresse. Puis c'est aussi suite à une discussion avec Stan Leloup où je lui avais dit, OK, dis-moi un petit peu là dans les prochains mois, c'est quoi la demande, elle va être où? Il m'a dit, la demande, elle va être sur le copywriting. J'ai fait, OK, on va vraiment regarder en profondeur ce que c'est que cette histoire. Et c'est là que ça a cliqué, où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça que je veux faire. Et moi, ça faisait déjà des années que je m'intéressais énormément à la conception et l'action, c'est-à-dire la traduction française de copywriting, et
Ok.
que je voulais faire ça, mais pour lequel je me disais, bah, tu peux pas faire ça, t'as pas fait d'études, donc c'est pas pour toi.
Ok, ça marche. Super intéressant. Ça veut dire que même avant d'être immergé, on va dire, dans le milieu du copywriting, de la formation en ligne, tout ça, enfin, formation en ligne qui était déjà du coup, mais du copy pur, tu avais déjà le contact de Stan.
Oui, bien sûr, on s'était rencontré. C'était quoi? Peut-être début 2010, fin 2018, début 2019, en fait, où j'avais postulé pour un taf chez lui, puisque je me disais, OK, il y a mon business qui tourne, mais si je peux bosser avec Stan, ce serait tout aussi bien, tu vois, ce serait vraiment canon. Donc j'avais postulé et j'avais fini dans les derniers. Dans les dernières personnes en fait en lice, ils
Ok.
avaient pris Sarah à l'époque de Sarah de Marketing Mania
Ouais.
à l'époque et c'est comme ça qu'en fait j'étais rentré en contact avec Stan.
D'accord. Ok. Et c'était quoi? C'était l'agence. Parce que je sais pas, en fait, ils recrutaient pour des copywriters pour les formations de la boîte ou alors ils ont une agence aussi Marketing Mania?
Non, à l'époque, Marketing Mania, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. Ils étaient deux. Et là, ils recrutaient deux nouvelles personnes, une personne à la créa et une personne à toute la gestion tech et market.
Ok, ça marche. Et copywriting, du coup, tu avais ton business qui tournait à l'époque, tu t'es dit que ce serait sympa de bosser chez Stan, mais du coup, est-ce que au moment où tu as postulé, tu avais tes premiers clients de trouver, comment ça s'est passé pour les trouver, combien de temps ça t'a pris? Parce que ça, c'est un peu la problématique de base, hein, de tous les copywriters. Trouver son premier client, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Comment toi, tu as procédé pour le faire?
Okay. En fait, quand j'ai rencontré Stan, j'étais pas encore copywriter. C'est après que j'ai pivoté. On s'est
Ok.
rencontrés, il m'a dit, OK, il y a de la demande par là. J'ai regardé, je suis parti sur le truc. Et du coup, je n'étais pas encore formé au
Ok.
copywriting à ce moment.
Ok.
J'avais quelques fondamentaux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, OK, je vais faire du copywriting. J'ai été pécho de la formation aux US massivement. Je me suis formé en masse pendant à peu près 3 mois, on va dire, dans ces eaux-là. Je me rappelle pas bien ce qui s'est passé pendant ces 3 mois-là, mais j'étais focus apprendre le copy et apprendre aussi à gérer un business de freelance. Ce que aujourd'hui la plupart des freelances en fait oublient de faire. Moi, 50% de mon temps c'était formation copywriting, 50% de mon temps c'était formation business. Et la plupart des freelances aujourd'hui, ils sont en mode 100% formation copywriting ou compétences. Et business, on ne sait rien faire et c'est pas grave, on y va tête baissée, on fait toutes les erreurs. C'est complètement OK, c'est bien d'éviter quoi. C'était les deux focus.
Ok.
3 mois de formation. Janvier, février, c'était à peu près dans ces eaux-là, je crois. Mars, si je dis pas de conneries, je sais plus très bien la timeline, je trouve un premier client.
Ouais. Que tu te souviens comment tu l'as trouvé,
Ouais,
ouais.
c'était pas fou. Enfin, la prestation était pas folle. Le client, je l'ai trouvé comment? Je l'ai démarché porte à porte, en gros. Il avait des salles de sport à Paris. Moi, j'avais été dans une de ces salles de sport aussi.
Ok.
Il avait posté des stories sur Instagram disant qu'il voulait faire de la formation. J'ai été le voir direct, en fait, en face à face.
Ok.
Je lui ai dit, on
Ok.
va faire de l'argent.
Il
Il
a
a
dit
dit, d'accord.
ça marche. Et du coup, à partir de ce moment-là, combien de temps t'as passé à être entre guillemets juste freelance, donc en gros juste bosser pour toi sans la structure, sans être formateur, etc. Comment ça s'est articulé tout ça? Dans quel ordre ton évolution entrepreneuriale, ça a eu lieu à partir de ce premier client jusque à maintenant? Je sais que c'est très long, mais si tu peux résumer ça à peu près.
Ouais. De toute façon, il y a trois arcs, à peu
Il y a
près.
trois arcs
Trois arcs.
dans la vie professionnelle de bébé.
C'est ça.
Ok.
Arc numéro un, effectivement, freelance, donc pour les clients one-one, comme ça, prestation de service, ça a duré à peu près, plus client, puis j'en ai trouvé un autre, puis j'en ai trouvé un autre. Ça a duré à peu près 1 an et demi,
Ouais.
environ, 1 an, non, 1 an. Ouais, 1 an, au bout d'un an. Non, 1 an et demi. C'est ça, 1 an et demi. Bon, après, en fait, au bout d'un an et demi, je commence à être vraiment, vraiment chargé au niveau des clients, puisque j'ai genre à un moment, je me retrouve en juin, j'ai 3 lancements à préparer en même temps. Ça
Ouais, c'est
devient un peu
hardcore.
chaud. Je recrute mon assistante qui m'aide un petit peu. À partir de là, on est en mode OK, c'est pas mal. Du coup, en septembre, je recrute une copywriter, on passe en mode agence. Ça, du coup, c'est le deuxième arc. On a fait l'agence pendant 1 an. 1 an et demi à peu près avant que je fasse un burn-out.
Ok.
Et ensuite, on a arrêté l'agence, on est passé sur les formations et on est toujours dans cet arc-là jusqu'à encore un petit moment, je pense.
D'accord, ok. Par rapport à tes sources de revenus, du coup, tes sources de revenus principales aujourd'hui, est-ce que c'est la vente de formation? Est-ce que c'est les masterminds? Est-ce que c'est peut-être les services en one-to-one de copie, quoi? Qu'est-ce que c'est tes sources de revenus principales aujourd'hui?
Alors, principal, je différencie pas forcément mastermind de formation, tu vois, puisque les deux, c'est de l'accompagnement.
Ouais, bien
Maintenant,
sûr.
c'est sûr que là, une grosse source de revenus chez Copy Rockstars aujourd'hui, c'est le mastermind marketing Rockstars, forcément, puisque c'est quand même un tarif un peu élevé. En deuxième, ça va être effectivement les formations. Et moi aussi, en parallèle, j'ai du consulting one-one, en fait, avec des clients. Qui apporte aussi du revenu, et c'est à peu près ça qui génère la plupart de la thune aujourd'hui. Je prends en ce moment, là, cette année, j'ai fait une prestation.
De copywriting, tu veux dire?
Ouais, j'avais pas envie
D'accord.
d'en faire plus.
Ok. Pour un lancement, des emails.
C'est ça,
Enfin,
ouais,
ok.
exactement.
Ok.
Et quand je dis que j'ai fait une prestation, j'ai supervisé une copywriter.
D'accord. Ok. Et chez Copy Rockstar, tout ce qui est autour de la formation, j'ai dû vraiment creuser pour voir sur quels axes vous formiez les copywriters, etc. C'est pas que c'est discret, mais en fait, si, un petit peu, j'ai quand même eu du mal à trouver vos formations. Et même actuellement, je crois que vous avez combien de formations? Vous en avez une ou deux? Je sais plus.
On en a genre 5 ou 6.
Je dis n'importe quoi. Il y a quoi? Il y en a une sur l'email. Il y a quoi d'autre dans le catalogue?
Il y a Email Rockstars, donc pour faire effectivement des emails qui vendent. On a
Ouais.
Consulting Rockstars pour vendre et délivrer du consulting. En fait, quand tu es prestataire ou oui, quand tu es prestataire ou consultant en marketing.
Ok.
Consulting Rockstars, Email Rockstars, on a une formation qui s'appelle Dans la tête de tes prospects pour faire une bonne recherche avatar qu'on a retirée de la vente, celle-là,
Ok.
parce que je vais t'expliquer pourquoi dans un instant, je fais mon copywriter.
Ça marche.
On a ça, on a ça, on a ça. Après, on a des petits produits, un petit produit à 12 balles qui s'appelle le kit du copywriter, qui est vraiment des checklists pour améliorer en fait tes pages de vente. Donc, c'est pas une formation à proprement parler. Ah oui, on a la formation Sold Out pour trouver ses premiers clients en 30 jours. La
Ok.
formation Breakthrough Copywriter qu'on a aussi un peu retiré de la vente là, pour les copywriters qui veulent structurer leur activité au-delà des 5 000 euros par mois.
Ça marche.
Je crois que j'ai
Et
fait le tour, mais
ouais.
j'en ai peut-être oublié une et elle va m'en vouloir. Elle va dire, Pébé, t'es pas sympa, tu m'as oublié. N'est-ce
Ok.
pas?
Mais en fait, c'est un catalogue beaucoup plus gros que ce que je pensais. Je crois aussi que vous n'avez pas une offre à abonnement avec.
On l'a eu. Pour
Ouais.
l'instant, elle est fermée. On est en train de réfléchir à comment la relancer pour que ce soit une offre pertinente, en fait, pour notre
Ok.
audience.
Ok.
Mais pour l'instant, c'est toujours fermé.
D'accord. Et au niveau de ce catalogue-là, est-ce que c'est une hallucination de ma part quand je dis que c'est assez discret et que c'est assez dur de trouver vos formations?
Ouais.
C'est vrai?
Non,
C'est plutôt.
c'est pas une hallucination. C'est vrai qu'il n'y a pas de page. Enfin, il y a une page formation dont on a retiré l'accès direct via le site. Tu vois, il y a une URL qui existe, mais on ne peut plus y accéder directement en se baladant sur la page d'accueil Copy Rockstars.
Ok.
Pourquoi? Parce que nous, on a fait un repositionnement en fait en début d'année, où pendant 1 an et demi, on a formé les copywriters. Et en janvier, j'ai décidé d'arrêter de former exclusivement. Les copywriters, on a décidé de pivoter sur notre cible et c'est pour ça qu'on a masqué la plupart des formations parce qu'on veut pas que les gens se disent que Copy Rockstar, c'est des gens qui forment des copywriters exclusivement.
D'accord, et du coup, la cible que vous avez commencé à cibler à partir du début de cette année, c'est quoi? C'est les freelances en général plutôt, c'est ça?
Les marketeurs en
Les
général,
marketeurs plutôt,
plutôt que les
ok.
freelances, ouais.
Ok.
Et du coup, forcément, la cible que j'avais aussi en tant que prestataire, c'est-à-dire les formateurs et les business coachs, principalement des formateurs quand même du marché du make money et business coach, c'est du make money. On a quelques personnes qui parfois sortent un peu des clous parce qu'ils ont des business originaux que j'aime bien. Ça fait partie du côté rockstar, tu vois.
Ok.
Par exemple, quelqu'un qui est sex coach, moi ça je kiffe trop, tu vois, je me dis vas-y, ça c'est pour nous. Mais sinon, la grande majorité de notre cible reste des personnes qui t'aident à gagner de l'argent sur Internet.
D'accord, ok. C'est vrai que sex coach, la recherche d'avatar doit être pas mal stimulante. Ça doit être assez
Ouais,
marrant, je pense, à faire faire un
non,
copier.
franchement, c'est chambé.
Ok, bon, c'est trop cool. J'ai une question aussi, puisque en début de podcast, tu t'es introduit comme un mec aimant le comté, aimant la mer. Je sais que, et je le vois sur ton Instagram, les spas font partie intégrante de ta semaine, de ta routine.
Ouais.
Ton lifestyle a l'air très kiffant et j'aimerais savoir, c'est quoi une journée type dans la vie de Pierre-Baptiste Poncelin? Comment ça?
Franchement, c'est routinier, hein. C'est très routinier. Il y a plein de gens qui trouveraient pas ça sexy.
Ok.
Je me lève. À une époque, je prenais mon café. Bon, maintenant, j'ai arrêté le café. Donc maintenant, je me lève. Je bois un verre d'eau.
Ouais.
Forcément, tu te lèves, tu fais tout ce que tu as à faire. Soit je vais lire 10 minutes un chapitre d'un bouquin et ensuite je vais me poser à mon bureau, soit je vais me poser direct à mon bureau
Ok.
et là je vais faire mes tâches, quelles qu'elles soient de la journée, sachant que là pour le coup dans la semaine j'ai des journées à thème, c'est-à-dire que le lundi matin je vais faire mon contenu, le mardi matin je vais faire mon marketing, le mercredi matin je vais faire du consulting, le jeudi matin je vais accompagner les membres du mastermind et le vendredi matin je vais être là par exemple avec toi et kiffer. Et
Ok.
samedi dimanche, j'en fous pas une en général. Et vendredi après-midi aussi. En fait, le vendredi, soit je fais des podcasts, soit j'en fous pas une. Et voilà. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je mange et j'ai mon après-midi. Et l'après-midi, c'est Soit je peux travailler, genre le mercredi après-midi, je sais que je travaille, mais lundi, mardi, jeudi, c'est souvent des siestes, c'est regarder la mer, c'est lire, c'est aller au spa, du coup, mardi après-midi, jour du spa, parfois vendredi après-midi aussi. Et c'est vraiment, c'est une vie de retraité. Hein. Franchement, quand je travaille pas, je regarde la mer, je lis des livres, je vais boire des coups avec des potes ou je vais au spa.
Et bah, ce style de vie, y a pas, y a, il en faut pas plus pour me rendre heureux, en tout cas, si j'avais le même travail. Bah, je suppose quand même que, mine de rien, même en travaillant seulement les matinées, il y a beaucoup de mecs dans l'entrepreneuriat, le business en ligne qui font ça. Je pense à Antoine BM qui prêche pas mal ce type de fonctionnement. Il faut une organisation en béton, je suppose, et je sais que tu as des systèmes, entre guillemets, bien précis pour faire tes contenus tous à l'avance, etc. Comment t'as développé tout ça au fil des années? Tu t'es formé sur l'organisation, peut-être?
L'organisation, oui.
Ouais.
C'est un peu différent pour la création de contenu. Pour l'organisation, oui. Ça, je le prêcherai, mais jusqu'à la fin de mes jours.
Ok.
La formation Méthode des 90 jours de Marketing Mania est une excellente formation. C'est la première formation que j'ai achetée. Enfin, limite. Ah non, j'avais acheté son Déclic aussi. Cette formation de Stan, moi, c'est ce qui m'a sauvé la life pendant des années pour vraiment être focus, efficace, productif. Dégager tout ce qui sert à rien et justement pouvoir bosser uniquement sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc ça a beaucoup aidé. Ensuite, c'était ben, un process d'itération où t'élimines, tu vois que tu es en train de faire un truc qui sert à rien, t'élimines. Et finalement, moi aujourd'hui, le business, ça se résume à trois choses. Créer du contenu
Ouais.
de qui attire des clients. Créer du contenu et là plutôt des emails qui transforment qui attirent des prospects. Donc, je reprends. Créer du contenu qui attire des prospects sur les
Ouais.
réseaux sociaux. Créer du contenu et du coup, là, du contenu de vente qui transforme ces prospects en clients. Donc, là, les emails. Trois, délivrer ma promesse. Donc, délivrer le mastermind, délivrer les formations, délivrer les accompagnements, tout ça. Et en fait, tout le reste qui rentre pas là-dedans, bah, franchement, on s'en branle, quoi. Passer des heures à optimiser un Notion, c'est toujours pas fait, je m'en fous. Là, je vais demander à mon assistante quand même de s'en occuper parce que maintenant on est quatre dans l'équipe et du coup, bah, parfois il y a des tâches qui se perdent un petit peu. Mes emails, là, il va falloir sérieusement que ça dégage parce que pour le coup, ça, c'est des tâches sur lesquelles je prends du retard. Par exemple, mes emails, tu peux ne pas avoir de réponse de ma part pendant 15 jours, parfois un mois. Sans que je réponde parce que je suis focus sur les autres trucs et je me dis ouais non mais les emails je préfère aller au spa quoi et voilà mais après tout le reste ouais non c'est juste simplicité au maximum au maximum au maximum quoi.
Ok. Et bah, avec ce système de fonctionnement, le fait de te focus sur les tâches 80-20 et depuis les années que tu es dans le milieu de l'entrepreneuriat, la question qu'on n'attendait pas, est-ce que tu peux nous dire, en tout cas peut-être cette année ou l'année dernière, quel a été ton chiffre d'affaires global?
Oui, bien sûr. L'année dernière, on a fini l'année à 100 000 balles, je crois. 100, 110 000 balles hors taxes.
Ok.
Un truc comme ça. C'était bien. C'était une bonne année. Cette année, on va la finir. Je sais pas. Attends, je regarde. Cette année, au prévisionnel, on va être sur. Est-ce que je suis sur la bonne année là? Non, je suis pas sur la bonne année. Cette année, on devrait finir dans les 200 000 balles, je pense.
Ok, bon,
Prévision. Donc, c'est progression, ouais.
ça fait quand même pas mal rêver ce genre de chiffre d'affaires, c'est très stylé.
Ouais, attention, c'est pas ce qui rentre dans ma poche, par contre, hein, ça, très important. Hein.
La phrase des youtubeurs, c'est dans ma société, les amis.
C'est ça, bah, c'est vrai,
Non, mais c'est
c'est
vrai,
vrai.
c'est totalement vrai, bien sûr. Et puis
Souvent,
surtout,
ça fait rêver les gens, on a l'impression qu'on est riche, mais pas du tout, quoi.
d'ailleurs, ça me fait penser, t'as des charges en pub, des choses comme ça ou pas pour ramener du trafic ou même pas?
Pub, non, j'ai arrêté en mars cette année. On a dépensé 2000 euros en pub,
Ok.
ça nous en a rapporté 4000, donc
Bon,
super ROI. Donc je devrais
ouais.
peut-être refaire de la pub,
Ouais, c'est un bon héros. Oui.
mais ouais, non, j'ai pas de charge en pub. Les charges que j'ai, c'est l'équipe, mon salaire et le
Ok.
mastermind dont je suis membre.
D'accord. Ok. Le mastermind, c'est que à distance. Il y a un peu de présentiel aussi, des fois, je crois.
Celui que j'anime ou celui dont je suis membre?
Ah, ok. Donc, il y en a un dont
Il y en
tu es
a deux.
membre.
Ouais, il y en
Il y
a
en
un où
a...
moi je suis membre dans un mastermind et j'anime un mastermind.
D'accord, parce que moi, j'avais vu un truc sur Insta, une sorte de mastermind en présentiel dans un cocon, une sorte de
Ouais.
d'hôtel. Ouais, ça
Ouais,
c'est
ça
quoi?
c'était le Mastermind 67 qui a été créé par Romain Collignon et maintenant qui est géré par la société Squared.
Ouais.
C'est un mastermind en fait d'entrepreneurs qui font entre 150 000 et 1 million par an. Une trentaine de personnes du coup qui se soutiennent dans leur challenge et dans leur business. Et effectivement, on se voit 4 fois par an.
D'accord. Ok. Et pour finir sur la partie entrepreneuriale, je vais te demander quelle a été la plus grosse erreur que tu as faite jusqu'à maintenant et que tu nous suggérerais de ne pas refaire.
Ouais, j'en ai une qui me vient automatiquement. La plus grosse erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai arrêté l'agence. J'ai dit à tous mes clients, j'arrête. Et de façon brutale
Ouais.
et non négociable. Et du coup, pour beaucoup, bah, ça a été un peu douloureux de se dire, bah, nous, on n'a pas envie que tu arrêtes, tu vois. Et j'aurais aimé bah, avoir pris déjà plus d'avance pour me dire, sachant que 3 mois avant, j'étais déjà en train de me dire, putain, j'en peux plus. J'aurais aimé avoir annoncé ça à mes clients plus en amont, préparer mieux ma sortie pour mieux les aider. Là, j'ai la manière dont je suis parti, j'ai pas pu faire mieux parce que c'était soit ça, soit je me tirais une balle en fait.
Okay.
Et finalement, cette erreur, j'invite vraiment qui que ce soit à pas la faire, c'est-à-dire à l'éviter. C'est-à-dire si vous êtes freelance et que vous voulez arrêter avec des clients, soignez votre sortie, quoi.
Ok, ça marche. C'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté le monde du street, etc. J'ai fait exactement pareil parce que je commençais à burn-out avec mes clients en coaching, en one-to-one.
Ouais.
Et je regrette également de ne pas avoir soigné ma sortie. Donc, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et puis, histoire de finir la partie entrepreneuriale sur une note plus positive, qu'est-ce qui a été la meilleure décision, à ton avis, dans ton parcours entrepreneurial qui t'a le plus aidé dans ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant? Une action, une réflexion, un système, je ne sais pas.
Faire ce qui fait peur, vraiment faire ce qui fait peur. Moi, je me rappelle, il y a eu quand même une bascule quand j'ai commencé à bosser avec Antoine Pétavin il y a longtemps. J'étais à un événement, donc ça, c'est la première partie, c'est aller à des événements, aller rencontrer des entrepreneurs, ça, c'est un truc capital à faire. Et du coup, je me rappelle où j'étais à table avec des gens et des gens étaient partis fumer. Antoine était dehors en train de fumer, on ne se connaissait pas. Et moi, je me retrouve avec une personne tout seul à table. Et je me dis, putain, le pauvre, je veux pas le laisser tout seul. Mais là-bas, moi, j'ai envie d'être là-bas parce que bah, y a mes potes qui sont là-bas et que les gens ils discutent et ça a l'air cool. Et mon intuition me disait, lève-toi, marche et va les voir. Et je pense qu'il y a un multiverse dans lequel je suis resté à cette table et où ma carrière a eu, je pense, une toute autre trajectoire. Ça me faisait peur quand même d'aller là-bas, parler avec Antoine et tout.
Ok.
Ça s'est fait, on a bossé ensemble et puis la suite fait partie de l'histoire, entre guillemets, quoi.
Ça marche, ok. Donc faire ce qui fait peur, envoyer cet email de prospection qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne pense pas être à la hauteur, aller
Ouais,
parler à
c'est
cette
clair.
personne, c'est ça?
C'est
Ok.
clair.
Ok. Bah, super, merci beaucoup pour ce conseil.
Avec plaisir.
Alors, je vais rentrer un peu plus dans le copywriting pur, la technique, etc. Enfin, la technique. En tout cas, la tarification, la prospection, les offres, tout ça, en tout cas dans les grandes lignes. Est-ce que la prospection, c'est un truc que tu as rodé, que tu as beaucoup fait, ou tu as testé pas mal de techniques, etc.?
Alors, tester pas mal de techniques, pas nécessairement, puisque j'ai pas essayé les techniques qui marchent pas, puisqu'on les
Oui.
voit suffisamment, on en reçoit suffisamment tout le temps. Prospection, est-ce que j'en ai fait? Email à froid comme ça,
Ouais.
un peu, mais pas énormément. Moi, ça a beaucoup été en fait événement et ça a beaucoup été réseau, en fait. C'est-à-dire que moi, la prospection, j'ai tendance à la déporter. C'est-à-dire dire à des gens de bosser pour moi, enfin de bosser pour moi, de m'attirer des clients. C'est-à-dire dire à quelqu'un qui est-ce que tu connais qui pourrait bénéficier de mes services. Tiens, est-ce que tu peux me mettre en relation avec telle personne? Tiens, est-ce que tu connais lui? Ah, tiens, tu veux pas lui parler de moi? Et c'est ce type de prospection que je faisais longtemps, que j'ai beaucoup fait, que je fais encore d'ailleurs. Plutôt que la prospection, salut, je te connais pas, viens, je vais te vendre des services dont t'as pas besoin.
C'est vraiment la prospection dont tu viens de parler, la prospection par effet de réseau, etc. C'est vraiment ce qui m'attire le plus aussi. Je ne sais pas si c'est que moi ou si vraiment, je ne sais pas, mais la prospection à froid par email, envoyer des looms, etc. Je sais que ça peut marcher. J'en fais un peu, mais ce n'est pas kiffant à faire. Je ne sais pas si tu as déjà fait, je ne trouve pas ça kiffant du tout à faire.
Alors, les looms, moi je les fais que pour des potes ou
Ok.
pour des clients déjà. C'est-à-dire que si t'es pas client, je vais pas te faire forcément une relecture de page de vente. Déjà, si je te connais pas, je vais pas te faire une relecture de page de vente ou d'email en fait. On s'en branle. Quelqu'un qui par contre va me dire ouais, ma page de vente, je suis pas trop convaincu, là je sais pas trop, je vais lui dire ok, tu me l'envoies. Si on s'est rencontré à un événement, si j'ai du temps, je lui dis tu me l'envoies, je te fais un retour rapide, y a pas de souci, paf pouf. Quelqu'un qui ne me connaît pas, on n'a aucune idée de si sa page de vente, il en est satisfait ou pas. Donc ça ne sert à rien de lui faire un loom pour lui dire comment optimiser sa page si la personne, elle est déjà en train de faire des turbo-millions avec une page de vente complètement pétée. Ça, c'est le premier truc. Ton loom, personne n'en veut. Première chose. Ensuite, ouais, ça, c'est les messages vraiment de prospection type, j'essaye déjà de résoudre un problème que je ne sais pas que tu as. Un bon message de prospection, c'est je vais voir si tu as un problème ou je vais vérifier avec toi si tu as un problème. Nous, on a un modèle chez Copy Rockstars pour ça qui est simple mais qui est sous-estimé et utilisé. Moi, je me fais prospecter toutes les semaines. J'ai jamais vu personne utiliser ce modèle. Putain, ça rend ouf. C'est quoi ce modèle? C'est OK, je te suis pour telle raison, enfin je t'ai découvert, voilà, j'aime bien ce que tu fais pour telle raison, tu vois, un compliment qui fait toujours un peu plaisir sans non plus tomber dans le je te lèche le cul, tu vois. J'ai vu que ton business, du coup, tu faisais ça, ça. Ça veut peut-être dire que tu as ça, ça, ça comme enjeu, donc challenge, challenge, problématique. Tu cherches des problématiques très spécifiques, du coup, de la personne. Ce que je vois qui pourrait être possible de faire, en fait, dans ton business, c'est peut-être ça ou ça. Voilà ce que ça permettrait de faire. Je te laisse me dire ce que tu en penses. Moi, c'est quelque chose que je fais si tu veux. Et est-ce que pour toi, c'est du coup, ça, c'est un sujet ou pas, tu vois? Si la personne dit oui, c'est un sujet, bah, alors on en parle. Mais déjà, toi, tu as chopé ses problématiques, ses désirs, et ensuite, tu lui demandes est-ce que ça t'intéresse.
C'est ultra pertinent ce que tu viens de dire. C'est un modèle dont vous parlez dans vos formations, donc toi tu démarches avec
Ouais.
ce modèle. Ouais, dans vos
Ouais,
formations.
ouais, ouais.
Ok. C'est vrai que c'est ultra pertinent parce que finalement, c'est vrai que peut-être que faire des looms, prendre son temps, 15 minutes, 20 minutes, un loom, etc. pour une personne. Parce qu'il y a des personnes, et j'en connais même dans mon entourage, qui ont des pages de vente techniquement pas incroyables, mais en termes de personal branding, ça rattrape tellement qu'ils font des thunes de ouf, tu vois, il n'y a pas
C'est ça.
forcément. Donc, ouais, putain, c'est super pertinent. Ok. Est-ce que tu refuses, toi, du coup, vu qu'avec l'effet de réseau, tu as quand même, je pense, des clients qui viennent à toi assez régulièrement, est-ce que tu refuses régulièrement des offres de copies par manque de temps, par manque d'envie aussi, peut-être, des fois?
Plutôt par manque d'envie. En fait,
Ouais.
aujourd'hui, bah, mon temps, il est limité parce que je bosse que 20-25 heures par semaine.
D'accord.
Et du coup, je vais uniquement faire des projets qui vont me rapporter beaucoup d'argent, en fait. Puisque aujourd'hui, je me dis, OK, si tu as là, si tu prends un projet copywriting, ça peut te bouffer entre 20 et 40 heures de taf. Entre 20 et 40 heures de taf, qu'est-ce que je peux faire? Je peux passer 10 heures à vendre une formation déjà,
Yeah.
et du coup, aller faire entre. Je sais pas, la contenu de ma liste email et contenu de l'offre que je peux faire entre 2 et 12 000 balles, voire plus. À voir, confirmer le plus de 12 000 balles sur un lancement, compte tenu de la taille de ma liste, là, ça me paraît ambitieux. 2 à 12 000 balles. Et là, j'ai passé 10 heures, il me reste 30 heures, admettons, pour bosser. Donc là, qu'est-ce que je fais sur ces 30 heures? Je crée une nouvelle formation qui va me prendre, je sais pas, peut-être 10 heures à créer.
Ouais.
Je la vends, plus 10 heures, donc là, plus 20 heures. Et je me refais 10-12 000 balles. Ok. Il me reste encore 10 heures. Je recrée une nouvelle formation. Là, bon, il me faudrait 10 heures de plus pour la vendre. Mais en gros, c'est-à-dire que sur un projet copywriting, je peux faire entre 5 et bah, 30 ou 40 000 balles, en fait. Et en tout cas, moi, si j'utilise ces 40 heures pour créer des produits, bah, je crée du capital dans ma boîte. Donc, dans tous les cas, dans ma tête, les 30 000 balles, elles existent, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je ne peux pas prendre de projet aujourd'hui, moi, en dessous de 15, 20, voire 30 000 euros.
Ok,
Et sur mon marché, il n'y a pas grand monde qui peut payer ce genre de tarif.
en one-to-one, du coup, si tu te prends en charge, imaginons un lancement complet, c'est quasiment impossible que tu y prennes en charge à moins de 15 000 fixe.
Franchement, la seule personne pour qui je ferais ça, c'est pour des potes,
Ouais.
vraiment pour rendre service. En dessous, je peux éventuellement accepter, mais c'est pas moi qui fais. Je fous ça chez une copywriter et je lui fais juste des relectures vite fait, tu vois. Comme ça, chacun y gagne. Pour que ce soit moi qui bosse, ouais, c'est 15 000 balles minimum.
Ok. Moi, ça me choque vraiment pas du tout. Hein. 15 000. Et bah, justement, c'est parfait. Je comptais en parler dans le podcast. Je sais que j'avais entendu dans un autre podcast. Il y a moyen que ça soit dans un podcast où tu es passé chez Copywriting Game. Je sais pas si tu te souviens de quoi tu es
Ouais,
passé. Ouais.
c'est Victor.
Ouais, exactement. Tu disais avoir un fixe de 8 000 à l'époque, un minimum, c'est-à-dire minimum. Là, bah là, du coup, ça a forcément augmenté. Est-ce que. Alors, ça dépend vraiment de l'offre que tu proposes, du packaging, entre guillemets, mais est-ce que pour, on va dire, un lancement ou même, je ne sais pas si tu as déjà géré des tunnels de vente, tu prends toujours des commissions en plus du fixe? Est-ce qu'il y a toujours une commission ou pas forcément?
Non, pas forcément. Il y avait une com une fois dans l'agence parce que bah, c'était on bossait avec un pote. Il m'avait dit tiens, prends une com. J'ai dit bah vas-y, je prends une com. Je suis pas trop
Ok.
fan de la com parce que derrière ça peut donner au client l'impression qu'il peut te donner plus d'ordres. Et moi, j'aime pas qu'on me donne des ordres
Ok.
parce qu'il va dire bah travaille plus, t'as ta com. Et je vais lui dire bah je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Et ça, aujourd'hui. Si je faisais un tunnel en entier, est-ce que je prendrais une com? Je pense quand même parce que maintenant toutes les actions que je fais doivent vraiment payer beaucoup de dividendes. Donc limite ouais, ce serait faudrait que je fasse un tunnel pour ça. Tu vois, si je fais juste tes emails, je vais pas prendre une com parce que on se calme. Par contre, si je te fais un tunnel trafic froid, vraiment de la landing page, page de vente, email de A à Z, oui là aujourd'hui ce serait pertinent que je prenne une com, mais c'est pas quelque chose qu'on avait à l'époque nécessairement dans l'agence, non.
Ok. D'accord, bah c'est très intéressant. Bah, par exemple, donc là, en gros, si tu fais un tunnel de vente pour un client, tu lui fais sa landing, ses emails, etc. de son tunnel, mettons, même si c'est une séquence email de, allez, 4, 5 emails, etc., tu vas prendre une com sur le tunnel, du coup, tu penses.
En plus d'un fixe, ouais.
En plus d'un fixe, ouais,
Mais
d'accord.
bon, j'ai tellement la flemme de faire ça que je le ferai pas, tu vois. Je sais pas, ça m'intéresse pas du tout.
Ouais,
Mais
je capte.
ouais, ce serait l'idée.
Ok. Okay, bah c'est très intéressant. Est-ce que. Mais d'ailleurs, comment parce que c'est mon cas actuellement. Alors, c'est avec une connaissance très proche. Donc, en termes de confiance, il n'y a aucun souci. Mais en termes de commission, quand tu n'as pas forcément les logs à plein temps de la personne chez qui tu bosses, les logs de son, je sais pas moi, de son CRM, de son hébergeur de formation, comment tu t'assures que c'est vraiment les bonnes commissions qu'il te paye si tu n'as pas la main mise sur, je sais pas moi, son dashboard Stripe? J'en ai aucune idée.
Déjà, c'est vrai qu'il y a un enjeu de confiance. Si tu
En
travailles avec
vrai.
quelqu'un qui te baise, il va te baiser dans tous les cas. L'idéal, c'est d'éviter de travailler déjà avec des gens en qui t'ont confiance, mais surtout, enfin, d'éviter de travailler avec des gens en qui t'as pas confiance et qui te font pas confiance. Mais surtout, nous, c'est un truc qu'on a recommandé longtemps aux copywriters qu'on accompagnait, c'est t'as accès. Alors, pas à Stripe, c'est pas le lieu. Mais tu as
Ouais.
accès au moins à son ClickFunnels, Kajabi ou quoi. C'est non négociable en fait.
OK.
Moi, quand j'étais freelance, au début de chaque presta, ça faisait partie du package de pour qu'on commence la presta, j'ai besoin d'avoir accès à ton truc de vente, à tes emails, j'ai besoin d'avoir accès à tout. Tant que j'aurai pas accès à tout, il se passera rien.
Et du coup, légalement, c'est spécifié sur le contrat, je suppose.
Bon, on ne faisait pas vraiment de contrat à l'époque, mais c'était
Ouais.
juste tu me files les accès ou je bosse pas, quoi.
Ouais, ok, ça me paraît logique. De toute façon, même pour Pour... Non, c'est pas forcément très pertinent ce que j'allais dire pour mettre en page la page de vente. Ouais, mais si c'est pas toi qui gères le design, si tu fais juste le copy, t'as pas forcément besoin des logs. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. D'un point de vue confiance, moi, je serais pas du tout en confiance de pas les avoir.
Ouais, et puis c'est bien même d'y avoir pour justement voir à quoi ressemble derrière le back-end, voir les autres offres. Ça facilite la vie de tout le monde. Tu peux checker les conversions de telle page, tel truc, tel machin. Plutôt que toujours devoir demander au client, tiens, tu peux me passer ça. Le client, il sait pas lire les dashboards. Il est
Ouais.
là, franchement, je sais pas, il est converti à 65%. Non, c'est pas la bonne page.
Non, clairement. Si
Donc,
c'était 65, ça
c'est ça.
si
Ce
c'était
serait trop.
65, ça ferait longtemps que
C'est ça.
ah, ouais, je comprends. Bah d'ailleurs, tiens, en parlant de clients, quand on bosse sur un gros projet, on va dire en tant que copywriter, pour avoir pour l'instant géré tunnel et lancement et des petites landing pages. Évidemment que le plus gros projet possible, c'est un lancement. Donc, d'après toi, combien de clients max on peut gérer tout seul en tant que copywriter freelance sur un lancement avant de perdre son âme, son cerveau et sa santé?
Deux, déjà deux lancements en même temps, c'est hardcore et
C'est
c'est
hardcore.
vivement déconseillé. C'est très très vivement déconseillé. Vraiment, sur une fenêtre de lancement, c'est bien d'être focus sur un client. Deux, après tu perds pas ton âme, mais tu commences vraiment à baisser en qualité d'accompagnement pour tes clients. Donc deux grands max où ça se chevauche. Mais au-delà de ça, il y a des trucs qui vont se perdre et la livraison va en pâtir.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'aurais peut-être dit trois, mais en fait, je viens de me rappeler d'une chose, c'est que quand tu as deux, alors après, si c'est la même niche, bon, déjà, tu vas pas bosser pour deux lancements sur une niche quasiment similaire qui sont concurrents, mais normalement, pendant un lancement, ouais, c'est vrai que tu es censé être focus sur un seul avatar client. Comme ça, tu as de l'inspiration qui vient au fur et à mesure que tu travailles. Si tu es dispersé sur deux avatars, ça peut être compliqué, non?
Oui, mais même au-delà de ça, si tu es dispersé sur toi, deux de tes clients, et que les deux ont des besoins qui se déclarent en même temps,
Ouais.
ça ne va pas le faire. Vraiment, sur une semaine, si tu as deux lancements en même temps, c'est showtime. Tu as 10 000 trucs à gérer. Après, non, pas forcément 10 000 trucs à gérer, ça dépend comment tu gères le lancement. Mais malgré tout, c'est bien d'être 100% disponible pour un client pendant un lancement.
Ok. Bah, d'ailleurs, sur les lancements que tu as gérés, ça, après la production de la page de vente, on va dire, c'était comment? C'était un email par jour, toute la semaine, c'était plutôt
C'est
ça, ouais.
ça,
C'est à peu près
à
le
peu
système
près, ouais.
classique.
Voilà.
Ok.
Quand j'étais tout seul, c'était ça, avec des appels réguliers avec le client, prendre des nouvelles, savoir si tout se passe bien pour lui. Moi, à l'époque, c'était des clients qui étaient aussi solo à cette époque, pour certains en tout cas. Et du coup, ouais, c'est s'assurer que la personne elle maintienne une haute énergie, qu'elle soit pas trop stressée. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'accompagnement quand son lancement est important.
Et ça, c'est très intéressant ce que tu parles d'accompagnement pendant le lancement, parce que là, ça sort du copy pur, et du coup, ça fait partie de ce que tu disais, c'est-à-dire des skills hors copy pur et donc des skills de freelance, quoi. Donc, c'est OK. Pour que le client ait la meilleure expérience possible, je suppose.
Exactement, ouais. Et
OK.
qu'il ait envie de rebosser avec toi, et que toi, du coup, tu as aussi des tarifs qui sont beaucoup plus premium, quoi.
OK. Et bah d'ailleurs, quand, imaginons, mets-toi à cette place-là, tu es tête baissée dans un lancement, etc., ou bah sur un gros projet avec un client, et à l'heure actuelle, tu peux pas en reprendre d'autres. Est-ce que tu conseilles quand même de continuer à prospecter pendant la période où tu es en train de bosser sur un gros projet? Parce que c'est un problème aussi qui est récurrent et auquel je fais clairement face. Tu bosses sur un gros projet, tu es trop content, il y a de l'argent qui rentre, tout va bien, tu vis ta best life. Et, et ben après le projet, le client n'a pas forcément un deuxième lancement ou un truc qui est ultra récurrent, etc. Et donc
Ouais.
tu te retrouves à repasser en phase de prospection, puis retravail, puis reprospection, puis enfin
Ouais.
bref. Est-ce que tu conseilles de prospecter pendant que tu travailles sur un gros projet du coup?
Oui.
Oui.
Tu as deux choses dans ton activité de freelance. Tu as deux
Ouais.
temps dans ton activité de freelance. Le temps de
Ouais.
développement de ton activité et le temps de délivrer auprès de tes clients. 50% de ton temps doit être alloué au développement de ton activité, 50% de ton temps doit être alloué à livrer auprès de tes clients. C'est pour ça que déjà, si tu bosses 40 heures par semaine, ça va, tu peux y aller. Moi, c'est pas mon cas. c'est 20 heures par semaine. Ce qui laisse 10 heures pour développer ma boîte, 10 heures pour aider mes clients. Ça laisse peu de temps pour les clients. C'est pour ça que sur un lancement, bah, tu t'occupes d'un seul client, en fait, en même temps. Et du coup, il te reste quand même derrière moitié de ton temps pour, effectivement, faire des actions de prospection. Et quand on dit action de prospection, tiens, c'est marrant. La semaine dernière, j'étais au B-Show de The B-Boost et il y a eu une excellente conférence de Michael Aguilar, qui est un sacré boss sur la vente et surtout sur les enjeux de prospection. Et lui, quand il parlait de prospection, il parlait de toute action qui te permet de ramener du client. C'est-à-dire que ça peut être de l'outreach, tu vas envoyer des emails, ou ça peut être directement de l'inbound, tu crées du contenu. C'est-à-dire que oui, quand tu es en train de bosser avec tes clients, toi, tu continues de bosser ta visibilité ou alors ton acquisition, soit en entretenant des relations, soit en prospectant, soit en créant du contenu. Mais tu
D'accord.
lâches pas, tu lâches pas. Et lui, ce qu'il disait justement, il a une manière très juste de le dire, c'est que c'est une hygiène, c'est comme se brosser les dents le matin, en fait. Tu te dis pas, ah, j'aime pas me brosser les dents, je vais pas le faire. Putain, qui dit ça? À part les enfants de moins de 10 ans, je ne sais pas. On n'est pas des enfants de moins de 10 ans, on est des entrepreneurs, on fait tourner des boîtes. Donc on va arrêter un petit peu de faire on va arrêter un peu de faire des caprices et on va se bouger le cul et on va aller chercher des clients et on va en faire une habitude, en fait. Voilà.
Et ça, c'est très intéressant. Donc, en gros, ce que tu conseilles, ce que tu conseillerais, c'est dans la semaine, limite, d'avoir des créneaux dédiés pour diviser ton temps et donc avoir soit de l'inbound, soit de l'outreach. Donc, soit du contenu, soit de la prospection, vraiment dédié et il n'y a pas le choix.
Exactement, il n'y a pas le
Ok.
choix. Ça fait partie de ton activité, en fait. Que t'aimes ça ou non. Après, c'est mieux de faire des trucs que t'aimes. Genre, il y en a qui n'aiment pas créer du contenu, bah fais de la prospection. Ah, mais j'aime pas faire de la prospection. T'as essayé? Non, bah essaye. Ah, t'aimes pas créer du contenu? T'as déjà essayé? Non, bah essaye. Ça, putain, ça, désolé, ça m'énerve. Mais les personnes qui sont là à dire, ah non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, bah retourne faire un taf, en fait. Je veux dire, t'as pas ta place. Si t'as pas, en si t'as envie de rien faire et que tu veux que ça tombe tout seul, bah retourne prendre un CDI ou alors si tu veux être copywriter, va bosser dans une agence et trimer pour des clopinettes et peut-être que tu seras heureux, heureuse, je sais pas. Mais si t'as pas envie de développer ton réseau, si t'as pas envie de faire de prospection, si t'as pas envie de faire de contenu, et bah c'est pas pour toi, quoi.
Donc, ouais, c'est en gros test, fais tout ce qu'il y a à faire ou retourne en CDI,
C'est
techniquement.
ça.
Ok. Bah, d'ailleurs, tu viens de dire bosser dans une agence, bosser pour des clopinettes, etc. C'est une légende ou pas que toutes les agences de copie sous-payent leurs copies?
Bah, c'était pas notre cas chez Copy Rockstars pour le coup.
Ouais.
J'ai rencontré d'autres agences. Je veux pas casser du sucre sur les autres agences, mais c'est vrai que souvent les gens sont payés au lance-pierre.
Ok.
Nous, on avait un système de rémunération chez Copy Rockstars qui était que le copywriter, selon son niveau, prenait entre 25% et 40% de la presta selon son niveau et selon tout ce qu'il faisait dedans, tu vois. Donc ça, on se mettait d'accord en amont. Ce qui, quand tu factures un lancement 8 000 balles, est déjà pas mal pour un copywriter débutant, généralement.
Ouais, c'est pas mal.
Mais effectivement, il y a beaucoup d'agences. Ouais, c'est une catastrophe. C'est vas-y, on te recrute. Non seulement on va te prendre à plein temps, c'est-à-dire que ça va être du salariat déguisé, mais en plus de ça, on va te payer 1 500 euros par mois pour nous chier, 3 pages de vente et 129 emails par mois, tu vois. Donc toi, tu bosses 40 heures par semaine, t'es payé 1 500 balles, t'as pas le temps de voir le jour et en plus, t'as pas la sécurité d'un CDI parce qu'il y a des éléments quand même de sécurité de CDI que t'as pas
Bien
dans
sûr.
un emploi salarié déguisé, quoi.
Ça marche. Mais du coup, je vais pas te demander de me citer les mauvaises, mais est-ce que c'est un truc auquel je m'intéresse, que le fonctionnement d'agence, on en reparlera un tout petit peu plus tard, je trouve ça passionnant. Est-ce que tu as, et c'est dur à trouver en fait, c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu as des noms d'agences en copywriting, de mecs qui gèrent ça par hasard et qui font ça bien, quoi, tout simplement?
Alors j'en ai une.
Ouais.
Alors attention, je sais qu'il y a des copywriters qui vont nous écouter. Elles ne recrutent pas en ce moment.
Ok.
C'est pour éviter de faire péter sa boîte mail. Après peut-être qu'elle recrutera dans le futur. Mais en tout cas suivez ce qu'elle fait. C'est bah Sarah, du coup, Scapaticci. Je ne vais pas expliquer son nom parce qu'il est beaucoup trop long, Sarah. Désolé. Elle a une agence qui s'appelle Matim Digital.
Ouais.
Donc, c'est une agence, effectivement, marketing et copywriting. Elle paye bien. Mais en ce moment, du coup, je ne suis pas sûr qu'elle ait besoin de faire grossir nécessairement la team. Et c'est quelqu'un qui gère très bien son agence.
D'accord. Bon, c'est très intéressant. Je ferai sûrement partie des gens qui postuleront si elles recrutent. Du coup,
Trop bien.
on parle bien de Sarah qui bossait chez Marketing Mania, du coup.
Exactement, ouais,
Ouais,
c'est ça.
ok. Ça marche. Je vais maintenant passer à des petites questions par rapport aux offres et puis même peut-être un peu sur les méthodes de copie. Un des plus gros problèmes des copywriters, on en a parlé, c'est de trouver un client qui va avoir des projets rémunérés récurrents. C'est un truc dans mon activité quand je faisais encore du coaching sportif, c'est un truc que je kiffais personnellement, c'est avoir très peu de rotation de clients. Moi, j'aime bien avoir un client, l'upsell, qu'on kiffe travailler ensemble et que ça dure des mois, voire des années, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aimerais reproduire en copie et que je n'ai pas encore réussi à faire jusqu'à maintenant. Est-ce que tu aurais des conseils au niveau peut-être de l'offre, du packaging qui est le plus apte à avoir de la récurrence? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent des newsletters. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Alors, newsletter, ça dépend. Souvent, les newsletters, c'est un email de contenu chiant comme la mort avec trois liens et on s'en branle de ce que ça raconte et ça part une fois par semaine et ça n'a aucune valeur héroïste en fait derrière. Tu vois, c'est-à-dire, tu
C'est
vois ton newsletter et ça fait pas de thune. On s'en branle.
ça.
Donc, le client, il va payer ça 100, 200, 300, ouais, non, 100, 200 balles la newsletter, c'est déjà cher.
De
Pour
quoi?
un truc qui rapporte pas de thune, tu vois.
Par mail ou par mois pour tous les mails
Par
du
mail.
newsletter? Oui, par mail,
Par
on
mail.
sait. Oui, par mail.
Et déjà, 200 balles une newsletter, c'est déjà cher payé, hein. Franchement, moi, je m'y frotterais pas. Maintenant, si tu es là en mode OK, je bosse avec ce client, il a tant de produits et du coup, on va faire tant de lancements par email par mois. Genre, c'est OK, des emails de vente, on en fait peut-être une séquence de vente par mois. Bah
Ouais.
là, c'est pertinent, tu vois. C'est OK, c'est quoi tes produits? Bah, j'ai ça, ça, ça. OK, bah, janvier, on lance ça. Février, on lance ça. Mars, on lance ça. Je te fais une séquence à chaque fois. Je revois la page de vente si c'est important à chaque fois. Et ça va te coûter tant.
D'accord. OK.
Et là,
Et
tu as ton truc. Mais en fait, un truc important que tu as dit, c'est que les gens, ils voient ça comme. Il faut qu'il y ait du récurrent. Il faut pas nécessairement qu'il y ait du récurrent en fait dans ce que tu vas faire. Il faut qu'il y ait une récurrence de projet. Et ça, c'est un truc que les copywriters oublient de faire, c'est qu'ils vont faire un projet. Tiens, ok, je te fais ta séquence email. Et après, ils vont dire au client, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le client, il va te dire, c'est bon, là, on est bien, on a fait notre truc, j'ai besoin de rien d'autre. Il a besoin. On a toujours, les entreprises ont toujours, toujours besoin de vendre. Il a juste besoin que tu lui rappelles. C'est-à-dire, OK, c'est quoi ton calendrier des 12, ton calendrier marketing des 12 prochains mois? Ah bah je sais pas. Bah posons-nous, discutons-en. C'est quoi tes objectifs pour les 12 prochains mois? C'est ça. OK. Quel produit tu as? Qu'est-ce que tu as prévu? Ça, ça, ça. OK. Donc là, on peut faire un lancement de ça. Là, on peut faire un lancement de ça. Là, on peut faire un lancement de ça. Et c'est comme ça que tu signes le projet. Et en fait, tu dois non plus penser au mois, mais tu dois commencer à penser au trimestre et à l'année en te disant, ce client, je travaille avec peut-être en septembre. Il n'a pas de nouveaux besoins avant décembre, sauf qu'en décembre, quand il va avoir des besoins, bah, ils vont être urgents. Donc, je le signe maintenant, je commence la presta, je la délivre et en décembre, il est tranquille.
C'est super ce que tu viens de dire. Ouais, et tu en avais déjà parlé, je crois, dans une interview que tu avais fait précédemment. C'est en gros, le client, il n'a pas envie que ce soit lui qui prenne les deux. C'est à toi, en tant que prestataire, de lui dire quoi faire et de le prendre par la main, quoi.
C'est ça, on n'a pas envie de réfléchir.
Oui. Et même toi, je pense que tu es dans cette démarche. Si quelqu'un vient te démarcher pour bosser avec toi, tu as envie qu'il te propose directement des choses concrètes et qui, ouais, tu n'as pas envie
Ouais.
de réfléchir toi à ta place sur quoi on peut bosser ensemble.
Non, c'est clair. Moi, on est déjà venu me voir en me disant, hey, PB, j'ai envie de bosser avec toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, bah, j'en sais rien.
Propose-moi un truc, je sais pas.
C'est ça, exactement. Dis-moi ce qu'on peut faire ensemble, dis-moi pourquoi c'est important, les résultats qu'on peut avoir. Et là, peut-être, effectivement, on va pouvoir discuter. Mais juste me dire, tiens, de quoi tu as besoin? Je suis là, j'ai besoin de tout, de rien. Donc, notre cerveau, c'est-à-dire quand tu poses cette question, toi, tu as le cerveau en ouverture totale et tu vois tout et du coup, rien. Et si la personne te dit, tiens, est-ce que tu as tel problème spécifique sur ton tunnel d'acquisition? Ok, ah bah oui, je l'ai. Donc, on peut bosser ensemble. Mais sinon, le cerveau, il est pas focus, quoi.
Ok, je capte. Bah, d'ailleurs, tiens, c'est quoi la plupart des gens qui te démarchent pour bosser avec toi, ils proposent quel type de service et c'est quoi par exemple le dernier que tu as accepté, on va dire. Alors, ça se trouve, ça fait 3 ans que tu n'as pas accepté quelqu'un,
Ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas accepté quelqu'un.
mais. Ouais.
90% des trucs que je reçois, c'est sur la boîte mail Copy Rockstars, c'est des trucs de développement du business. On ne sait pas trop ce que c'est, tu vois.
Ouais.
Je comprends rien en général à leurs offres. On va t'aider à avoir plus de leads. Je fais là, ok, c'est cool. Sur Instagram, par contre, et ça me rend fou. Je ne sais pas qui forme ces gens, mais il va falloir le buter. Alors non, ce n'est pas un appel à la haine, pardon. il va falloir le buter métaphoriquement parlant, comme dirait Jeremy Coleman. Mais les monteurs, j'en peux plus, en fait.
Je suis désolé puisque un des mecs qui forme le plus les monteurs à prospecteur en masse comme ça, c'est celui pour qui j'ai bossé dans mon dernier lancement.
Oh
C'est
putain, merde.
il s'appelle Sylvain. Sa méthode de prospection repose sur le fait de DM des gens en masse. Alors ça marche très bien, mais ça commence à être saturé. Et du coup, dans vos jolies boîtes mail d'infopreneurs, vous recevez le même message.
Ça nous rend ouf. On veut
J'aime
plus ces gens. On n'en veut plus.
ça. C'est quoi, c'est salut, je peux faire ton montage, blablabla, voici mon
Ouais, c'est
portfolio,
ça.
etc. Ouais, c'est
Ouais,
cool.
c'est ah tiens, j'aime bien ce que tu fais. Alors déjà, j'aime bien ce que tu fais. La personne, tu vois en 3 lignes qu'elle n'a pas regardé ce que tu faisais puisqu'elle te dit un truc à côté de la plaque. C'est
Évidemment.
copier-coller chez tout le monde. Ah tiens, je te propose de monter tes réels. J'ai déjà une monteuse extraordinaire et ça se voit. En fait, ça se voit, c'est sur mon profil que c'est réel, ils sont bien faits et qu'il n'y a pas de putain de faute d'orthographe. Les monteurs, faites un effort. Même l'IA, elle fait pas de faute d'orthographe. Non, ça, franchement, on n'en peut plus. Et on est nombreux à ne plus en pouvoir des monteurs qui nous prospectent.
Ouais, je sais, hein, même à mon très petit niveau sur Instagram, j'en reçois toutes les semaines, je suppose que c'est infernal, si t'as plus d'audience, c'est joué, je sais. C'est très relou.
C'est vraiment relou. Mais tu vois, ce qui est relou, c'est pas de se faire prospecter, c'est de se faire prospecter de façon nulle.
C'est vrai.
Tu vois, moi, si le monteur, il m'envoie un message sympa, ça fait plaisir et tout, peut-être qu'il peut me donner, bah justement, me parler de moi, de mes problèmes, ou peut-être qu'il peut, je sais pas, faire un truc qui va changer, qui est pas un putain de message que tout le monde copie-colle, où 500 personnes ont suivi la même formation et 500 personnes envoient les mêmes messages. Bah moi, le gars, je lui dirais, non, on va pas bosser ensemble parce que j'ai déjà ma monteuse. Néanmoins, ton message m'a fait plaisir, donc merci.
Je capte. Ouais, en vrai, si j'étais monteur, je pense que j'essaierais de me différencier. Je sais pas, j'irais te proposer de faire des vidéos de vente pour tes formations Copy Rockstar. J'en ai aucune idée, mais tu vois, il y a un peu d'implication. Ça veut dire que tu connais déjà la boîte, tu connais. Ça change tes messages en prospection. Mais ouais, la prospection dans le montage, comme c'est. Les monteurs qui se différencient par. En fait, j'ai l'impression quand même, tu vois, le montage, c'est un business où il y a moins de différenciation que le copywriting. Le copy, ça joue énormément sur la spécificité. Est-ce que t'es niché en tant que copywriter? C'est rare qu'il y ait un monteur qui vienne te démarcher en te disant je suis un monteur spécialisé dans l'éducation canine, tu vois. On peut prospecter en masse sans
C'est
problème.
vrai.
Pas en copy. Enfin, en tout cas, difficilement, aussi largement, je pense pas, tu vois.
C'est vrai. Par contre, un bon moyen de se démarquer, pardon, chez les monteurs, c'est déjà d'être bon, en fait. C'est
Oui.
non, mais vraiment, sincèrement, on en parlait encore avec des potes la semaine dernière, des potes entrepreneurs. Une grande majorité des monteurs sont juste nuls.
Oui.
Donc déjà, deviens bon à ce que tu fais, fais pas de faute d'orthographe et ne disparais pas dans la nature quand on a besoin de toi. Soit un bon freelance, déjà, putain, tu vas péter 90% des autres monteurs, quoi.
Oui,
Moi,
faut.
je paye 3 fois plus cher mes réels que le marché pour avoir quelqu'un de solide.
T'es réel si. Alors, tu m'as dit 3 fois plus cher que le marché.
Ouais.
Pour connaître la tarification, on va dire que le marché des réels, c'est entre 20 et 30 balles de réel. Tu les payes 90, t'es réel?
Bah, j'ai commencé à 90 et maintenant on fait des packs qui permettent de réduire les prix où je lui en commande 30 d'un coup, tu vois.
Ok.
Mais j'ai démarré à 90 balles de réel et
Ah.
j'étais content de les payer parce que je savais que j'avais quelqu'un qui allait délivrer bien, qui allait délivrer en temps, en heure, qui allait faire un petit effort supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle allait faire un montage plus avancé que ce que ferait une putain d'IA. Et ok, 90 balles, ça fait quand même mal au cul. Sauf qu'au bout d'un moment, t'en as marre de tomber sur des monteurs nuls.
90 balles le réel, c'est effectivement très solide. Hein. Je suis d'accord en termes de tarification, mais oui, si le service de freelancing est très bon, si la monteuse est forte, si nanana, ça vaut le coup finalement, bien sûr. Ok. J'ai aussi une question par rapport au fait de bosser gratuitement. J'ai entendu dans je sais plus quelle interview que tu as faite, de toute façon, j'en ai écouté pas mal, histoire d'avoir des questions pertinentes à poser, sur le fait de ouais, bosser gratuitement, justement, c'est une erreur que tu dis avoir fait dans ton parcours de copie. Du coup, en fait, ça, j'allais dire, ça détonne. Pas forcément, mais ça change un petit peu du discours de certains grosses têtes, en tout cas dans la création de contenu, copie, vente de formation. Je pense par exemple à Benoît et Joseph, des copywriters, qui recommandent souvent de donner, entre guillemets, je sais pas moi, du consulting gratuit, un échantillon gratuit, une analyse gratuite pour prouver la valeur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est plus de la perte de temps qu'autre chose? Ou alors ça vaut vraiment le coup puisque... Voilà, je te laisse développer.
Non, ils ont raison. Benoît Joseph, ils font du super taf. Et ils ont raison là-dessus. Du consulting, alors du consulting, entendons-nous, tu vas pas
Oui.
filer 3 mois d'accompagnement, c'est on se prend 45 minutes, on discute, on regarde ton business, tu vois. Bon, là, on est limite en call de vente déguisé à ce point-là. Mais discuter avec une personne qui te dit, OK, j'ai peut-être un problème avec mes emails, lui dire, OK, vas-y, envoie-les-moi, je prends 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes pour te les relire. Et on voit ce qui déconne. Et là, tu en profites pour poser des questions sur le business, parce que les emails, c'est la partie émergée de l'iceberg. Après, toi, tu vas voir où sont les vrais problèmes de vente, tu vois, en voyant aussi potentiellement la séquence, l'offre, la page de vente. Aucun souci pour offrir, là, pour le coup, si c'est demandé par la personne, s'il y a un besoin chez la personne, de lui faire des relectures, regarder son business, faire une petite analyse, un petit audit, surtout quand tu te lances. Après, quand tu commences à vraiment avancer, soit tu le fais plus parce que t'as pas le time. Moi aujourd'hui, par exemple, un audit ça coûte 2000 euros si tu veux que je regarde ton tunnel. Parce que bah, j'ai plus forcément le temps de faire ça gratos. Je vais le faire pour des potes ou je vais le faire pour. Comment on va appeler ça? Pour des gros comptes en fait. Où je me dis, ok, cette personne, j'aimerais bien quand même qu'on fasse un truc ensemble. Je vais lui faire une relecture avec grand plaisir. Donc, quand tu te lances, ça peut être à peu près sur tout le monde, déjà, pour t'entraîner. Ensuite, sur les personnes les plus qualifiées. Par contre, ce que tu ne vas pas faire jamais, gratuitement, c'est
Ouais.
écrire la moindre ligne.
Ok.
Ça, c'est mort.
Ok.
Et je dirais pareil pour les monteurs. Les monteurs qui te proposent. Moi, on me l'a déjà fait. Je te propose 3 réels gratuits. J'avais accepté. J'étais content d'avoir des réels gratuits. Mais au final. Ça fait bosser le monteur et puis il n'est pas sûr d'avoir le client derrière. En gros, ton cœur de métier, le faire, doit être facturé.
D'accord. Ok. Bon, c'est très intéressant et je pense que ça évitera à beaucoup de personnes de perdre du temps à faire du copy qui est la tâche principale, le truc, le plus gros truc gratuitement, quoi. Où
C'est ça.
t'es même pas sûr d'avoir un retour.
C'est ça. Surtout qu'en plus, parfois, tu as des clients qui vont dire, ouais, bah, qui font des recrutements. Bon, ça, c'est les clients qui sont aussi. Ça, c'est le type de client qui est con, désolé de le dire.
Ouais.
Mais qui va dire, ok, t'es copywriter. Bon, bah, je te teste, fais-moi un email. Là, le copywriter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire quelque chose sur une page, qui est la pire manière de faire du copywriting. Pourquoi? Parce que tu as besoin de connaître la cible. C'est-à-dire que si je ne sais pas à qui tu vends, bah, je vais faire un email. On ne sait pas trop à qui ça s'adresse. Je vais tirer des hypothèses dans ma tête, donc ça va être nul. Après, ils vont regarder le style, sauf que le style, c'est censé être celui du client. Et là, tu vas pas passer 5, enfin, ouais, tu vas pas passer 5 heures à copier à prendre le style du client pour le copier, parce que tu as mieux à foutre. Bref, toutes ces choses qui font que l'email que tu vas faire gratuitement en test sera un email à chier, en fait, quoi que tu veux, quoi que tu fasses. Donc, voilà pourquoi faut pas faire ça.
Ça marche. Donc en gros, dans ce cas de figure, si y a un recruteur qui dit fais-moi un email, il y a une flopée de questions avant de faire l'email, ou alors toi, tu fais même pas l'email, tu ne rédiges pas gratuitement, c'est
Non, moi, je rédige pas gratuitement, non, c'est mort.
ça? Ok. D'ailleurs, tiens, tu parlais du fait de si tu fais cet email, tu vas pas avoir le bon avatar parce que en gros, si tu commences direct à rédiger sur une feuille blanche, il y a plein de choses qui vont pas. Comment ça, c'est une problématique qui est très intéressante aussi. Comment est-ce que toi, tu te mets si c'est déjà arrivé de sortir de la niche du make money? Je pense que oui, tu m'as dit que tu avais déjà bossé avec des coachs en sexe, en sexualité, je crois, c'est ça?
Non, ça c'est dans le cadre d'une mastermind. Par contre, on a bossé avec Brenda Boucris en séduction.
En séduction. Une niche qui n'est pas forcément ta niche de prédilection, on va dire, comment tu t'immerges dedans, comment tu prends. Alors, surtout que des fois, tu as des problématiques rapides, des lancements où il faut aller vite sur la connaissance de l'avatar et où il faut commencer à poser du copier rapidement. Comment est-ce que toi, tu t'imprègnes d'une niche, tout simplement, et des problématiques des gens dedans?
Alors déjà, première réponse, le côté lancement où il faut aller vite et écrire rapidement, nous on le fait pas. C'est je prends le temps. Je prends le temps, sinon sa copie elle va être à chier. Donc je prends le temps. Je suis pas. Si tu as besoin de quelqu'un qui écrit, tu demandes à ChatGPT ou tu demandes à un rédacteur, tu vois. Tu demandes pas à un copywriter. Le copywriter, il est là pour vendre. Donc il est là pour faire son taf de recherche. Bien. Ensuite, j'ai une formation complète sur le sujet qui dure à peu près 2-3 heures si tu veux. Mais en gros, c'est quoi? C'est. Vas-y.
Je mettrai le lien de la formation dans les
Bah,
notes du
elle est plus en
podcast.
vente, elle est plus en vente pour le coup en ce moment. Elle est que vraiment pour nos clients du mastermind exceptionnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vas commencer par analyser bah, plusieurs choses en même temps, en fait. Enfin, en même temps. Nous, ce qu'on va faire dans notre système, c'est OK, si on n'a pas sondé la liste depuis un moment, on va sonder la liste. On va voir qui sont à peu près les gens qui sont là-dedans. OK, on va sonder les clients aussi. Potentiellement faire des appels avec les clients, potentiellement aussi discuter avec les personnes qui ne sont pas passées à l'achat alors qu'ils étaient intéressés, puisque eux, c'est les plus intéressants, puisque c'est des gens qui ont le problème et qui n'ont pas acheté. Donc, c'est qu'il y a un truc qui est déconnant dans ta solution. Ça, on va forcément analyser le produit massivement, le produit, son histoire, la personne qui l'a créé. On va analyser le marché, qui sont les concurrents, comment ils se positionnent. Quelles sont les promesses? Quels sont les discours de vente? Et déjà, avec tout ça, bah, on va avoir pas mal d'informations. Et après, bah, on va les trier tout simplement en voyant, OK, c'est qui, soit les différentes cibles qui ressortent, soit la cible qui ressort tout court. Est-ce qu'il n'y a pas des big ID qui se baladent? Quelles sont les frustrations? Quels sont les désirs? Quels sont les éléments bloquants? Et puis après, on liste tout, quoi.
D'accord. Bah, j'espère que je crois être inscrit d'ailleurs à la liste email de Copywriting Rockstar. J'espère que si vous la remettez en vente, j'en aurai connaissance que c'est un truc que je passerai commande. C'est sûr et
Ça
certain.
marche. Ok, bah, si tu veux, je te l'ouvrirai exceptionnellement.
Ça marche. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis chaud. Dernière question sur les méthodes de copie avant de passer à quasiment la dernière partie du podcast qui sera l'agence. J'ai une question par rapport au style de page de vente que tu préfères. Je n'ai pas tous les noms des clients avec qui tu as bossé, donc je ne connais pas exactement ton style au niveau du branding. Je sais que tu as bossé avec Charlotte Apieto de Postadem. T'as dit Est-ce que tu peux nous rappeler quelques noms avant que je finisse ma question d'ailleurs?
Ouais, bien sûr. Donc, Charlotte Apieto, Postadem. Pardon. Kiffe ton cycle, Gaël Baldassari, avec qui on a bossé, du coup, sur le cycle menstruel. Excellent, ça. J'invite tout le monde à aller voir ce qu'elle fait. Romain Collignon. Antoine Pétavin, du coup, il y a longtemps. Antoine, amour, cœur.
Alex Viséo, si je dis pas de bêtises aussi.
Ouais, de
Ouais,
ouf, Alex.
ouais, ouais.
Qui d'autre? Faudrait pas que j'en oublie, ce serait quand même un peu. Ça foutrait le seum aux gens. Donc, Brenda. Après, je vais pas tous les citer parce que je pense à tous. Je regarde mon site en voyant okay, on a un peu bossé ensemble avec Danilo, mais vite fait. Et j'en oublie pas, mais je pense fort à eux, d'autres personnes sur le marché.
Ça marche. Et bah, pour tous ces clients, je pense que tu as eu le temps, et puis même il doit y en avoir plein d'autres que tu n'as pas cité, comme tu as dit, tu as eu le temps de développer ton style, tes préférences. Est-ce que tu es plus page de vente, entre guillemets, à l'ancienne, sans illustration, à la Marketing Mania, Antoine BM, etc., ou des pages de vente un peu plus new gen, avec plein d'illustrations, des gifs, des images, des machins, des trucs interactifs trop cool? Voilà. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je suis pour une page de vente qui vend, en fait. C'est-à-dire que je m'en fous du style, je ne me pose pas la question. Nous, on a notre base quand même de on va te faire une page de vente texte. S'il y a besoin de photos et de visuels comme preuve pour appuyer ce qu'on dit, on va les mettre. Par contre, effectivement, aller rajouter des trucs qui servent à rien, bah, je m'en fous. On n'a pas besoin de rajouter un gif, à moins qu'il soutienne un propos ou que ce soit une blague dans la page, tu vois, ou un truc comme ça, oui. Mais après, moi, je ne suis pas designer, je suis nul en design. Ça se voit sur tous mes réseaux sociaux. Je laisse ce travail au designer. Quand on en a un, c'est bien. Quand on n'en a pas, on fait 100. Et du coup, ah non, c'est page de vente texte plus preuve, quoi.
Ok. Bah, je suis quand même très fan de ta phrase. Je suis fan d'une page de vente qui vend. C'est, je pense, le principal.
C'est ça. C'est le plus
Ouais.
important. Et si pour vendre, il faut mettre, ça rajoute des ventes. De mettre des paillettes et bah rajoute des paillettes.
C'est vrai. Bah non, bah, tu sais quoi, j'ai une dernière question avant de passer. Mais du coup, tu viens de dire, ça rajoute des, si ça rajoute des ventes de mettre des paillettes, est-ce que. Dans les packagings, les offres de ta boîte, vous avez aussi du split testing du coup. Se rajouter, non? Vous avez pas?
On
Ok.
l'a fait avec une cliente, le split testing, en fait, je trouve ça bidon. C'est bien pour une boîte, soit une énorme start-up française, soit une start-up basique américaine, puisque de toute façon, une énorme start-up française, c'est une énorme, c'est une basique aux États-Unis. Si tu
Ouais.
as énormément de trafic, un split
Yes.
testing, ça va être bien, tu vois, mais vraiment, tu te dis, OK, j'ai 50, 100 000 visiteurs par mois sur cette page, OK, fais du A/B test, c'est bon, tu vas avoir des chiffres. Si tu as 500 personnes qui passe sur ta page de vente, ton A/B test, il va être claqué au sol et ce sera plus une question de chance et de hasard qu'autre chose. Parce qu'il y en a une qui va un peu mieux marcher que l'autre, mais tu as un échantillon tellement faible de personnes que la modification de des paillettes, d'un bouton, de ta headline aura un impact quasi inexistant sur les ventes.
D'accord. Ok,
Et
bah
les
en
gens
fait.
dans la... Ouais, vas-y.
Ouais, non, vas-y, excuse-moi, je te poserai la question après.
Et le truc, c'est que dans l'infoprenariat, ça sert à rien de faire des A/B tests. T'as pas besoin de ça. Les chiffres vont être bidons. Et passe plus de temps à faire plus d'offres qu'essayer d'optimiser une page de vente que tu sauras jamais si elle est optimisée ou pas.
D'accord. Bon, c'est très intéressant. Mais donc, du coup, ça voudrait quand même dire que, imaginons que dans les offres. On bosse pour un client qui fait de la pub et donc même si qu'il y a une très petite audience, genre je sais pas moi, ça dépend du budget du client, mais il y a plein de mecs dans l'infoprenariat ou dans le monde du business en ligne qui ont 2000 abonnés et qui sortent des 20 000 euros par mois, tu vois. Il y en a, tu vois. Et bah si ce cas de figure-là arrive, que le client fait de la pub et qu'il a 100, 200 000 visiteurs sur sa page, c'est pas une grosse start-up américaine, mais ça vaut peut-être le coup aussi
Ah
d'AB tester. Ouais.
oui. Là, si
Oui.
tu as ce type de trafic, tu A/B testes. Bah, déjà, tu vas A/B tester les landing pages à fond.
Ouais.
Après, sur la page de vente, tu peux commencer à A/B tester des leads, on va dire, des headlines et des leads. C'est à peu près tout, en général. Tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin à ce stade sur ce marché. Mais là, tu vas effectivement A/B tester déjà toute l'entrée du tunnel, quoi.
Ouais, bah, de toute façon, sur de la pub, sur un tunnel qui est bien optimisé, je suppose que, comme tu dis, c'est les landing pages et la conversion email qui est la plus rentable, entre guillemets, à A/B tester. Ouais.
C'est ça.
Ok. C'est super intéressant. On est bientôt à la fin du podcast. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a énormément de valeur que tu as apportée dans ce podcast. C'est incroyable. Donc,
Ça me fait plaisir.
ouais. Alors, et là, je vais te poser quelques questions. Par rapport à l'ancien système d'agence, entre guillemets, parce que je t'ai dit, c'est un truc qui me passionne. Et donc, du coup, ça m'a un peu fait mal au cœur, moi qui n'ai jamais monté d'agence dans quoi que ce soit, mais qui aimerais par la suite dans ma vie, quand tu as expliqué que ça ne t'avait pas tellement plu que ça au niveau de la gestion, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi ça t'a pas plu? Qu'est-ce qui n'allait pas dans la gestion? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile aussi, les défis que tu as eus avec l'agence?
Les défis, c'est l'humain,
Ouais.
exclusivement l'humain. En fait,
Ok.
quand tu es freelance, tu peux être freelance designer, tu peux être freelance copywriter, tu peux être freelance monteur, si tu as envie.
Ouais.
Est-ce que tu fais de la prospection bien? Quand tu es tout seul, tu fais ton métier.
Ouais.
T'es passionné de ton métier, t'aimes ça, tu vois, c'est cool. Quand tu commences à créer une agence, tu fais une croix sur ton métier et tu deviens manager, gestionnaire et nettoyeur de merde, généralement, parce que tu nettoies toutes les merdes de tout le monde. Et ton métier devient à peu près 10% de ton temps et c'est la partie des 10% la plus à chier du métier, tu vois. Voilà ce qui se passe quand tu crées une agence. En fait, et il y a des gens qui vont peut-être se plaire là-dedans, et c'est complètement le cas. Je pense à Sarah, par exemple. Elle adore manager et elle est excellente à ça. Elle adore gérer les projets. Moi, non. En fait, moi j'aime faire de la copie, moi j'aime analyser un marché, trouver des idées, assembler du coup la copie, écrire les textes et vendre en fait. Et en fait, quand tu as une agence, bah, tu peux plus le faire tout seul. Ou alors, tu fais une one-person agency, tu vois, une agence d'une personne. Et en fait, c'est quoi une agence d'une personne? C'est juste la même chose qu'un freelance, 3 fois plus cher, 3 à 10 fois plus cher, tu vois, c'est tout.
Mais ça justement, je commence à en avoir marre des agences en SMMA où le mec est tout seul dans son agence. Je comprends pas en fait. Enfin, ça, c'est.
C'est une agence d'une personne. Après, tu as peut-être parfois une assistante, tu vois, un truc comme ça, un assistant.
Ouais.
Mais ça le fait. Tu vois, ça marche pour eux, peut-être. Mais en tout cas, ils continuent de faire leur métier, eux.
Ouais.
Contrairement à nous, quand on va faire une agence et qu'on prend des copywriters et qu'on galère. Donc ça. Et les challenges, du coup, ça devient l'humain. Parce qu'en fait, toi, tu te retrouves à gérer tes clients, leurs demandes, leurs émotions, leurs trucs. Tu te retrouves à gérer ton équipe. Donc, ton copywriter, si tu as d'autres personnes qui gèrent d'autres trucs, les autres personnes qui gèrent d'autres trucs, par exemple, la mise en place du tunnel pour ceux qui ont des agences marketing, là, tu te retrouves à nettoyer toutes les merdes des trucs qui marchent pas, les fautes, les machins, les trucs. Toi, tu deviens juste la personne qui est inspectrice des travaux finis et généralement, les travaux finis sont pas très, très bien finis. Et voilà pourquoi, en fait, moi, une agence, ça n'a pas été pour moi. Moi, je me faisais accompagner à l'époque par quelqu'un qui a fait une agence qu'il a montée à environ 15 ou 20 millions par an aux États-Unis. C'est un gars qui s'appelle Sam Woods. C'est un excellent marketeur, excellent copywriter. Aujourd'hui, c'est un des kingos sur l'intelligence artificielle
Ouais.
en termes de market, justement. Il m'a accompagné sur toute la création de l'agence. Et en fait, très vite dans cet accompagnement, enfin très vite, non, c'est plus à la fin de l'accompagnement où lui, derrière, il avait arrêté son agence. Et je lui avais dit, mais pourquoi t'as arrêté son agence? Il m'a dit, bah, parce que je faisais plus mon métier, en fait, qu'était le marketing et le copywriting. Et en fait, j'étais arrivé, du coup, un peu plus rapidement, à cette même conclusion de, si je développe l'agence, l'agence, c'est pas ma zone de génie. Et du coup, ça va pas, c'est pas ça qui me fait vibrer, quoi.
D'accord. Ok. Bon,
Ça te
c'est très
parle?
très. Ouais, ça me parle vraiment. C'est très 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 intéressant. Attends, bah, juste avant de te poser cette question, je viens de repenser à ce que tu viens de dire sur le fait que tu as été accompagné par un mec très très chaud en termes de business aux États-Unis. Est-ce que tu as parlé des formations en début de podcast que tu avais suivies en copie aux États-Unis? Il y a beaucoup de choses qui partent de là-bas. Et j'ai deux questions par rapport aux États-Unis. Déjà, la première, c'est quelles ont été les formations/slash formateurs qui t'ont aidé dans cette niche, parce que les copywriters français à suivre, on commence à les connaître. Mais aux États-Unis, est-ce que tu peux citer, si tu te souviens, de. Ouais.
Les toutes premières, moi je sais que je me suis massivement formé auprès de Johanna Wiebe, j'ai jamais su comment on disait son nom, putain. Chez Copy Hackers, eux ils font de la copie pour start-up à la base et ils ont parmi les meilleures formations, en tout cas c'était le cas à l'époque, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. En copywriting, vraiment eux. C'est vraiment du copywriting ultra scientifique et c'est vraiment cool. C'est pas forcément adapté pour tout ce qui est coach et choses comme ça. En tout cas, ça l'était pas à l'époque. Moi, j'ai dû pas mal me démerder du coup à trouver des solutions ailleurs. Mais eux, c'est des monstres pour ça.
Ouais.
Et après, en parallèle, en fait, ce que je faisais, c'est qu'il y a plein de gens qui s'étaient formés chez eux aux États-Unis et qui avaient commencé à faire aussi. Enfin, eux, ils sont au Canada pour le coup. Et qui avaient aussi commencé à faire leur business Derrière, ils avaient été copywriters, ils avaient réussi, ils avaient fait des business de formation. Et en fait, chacun avait un peu choisi un truc spécifique. Il y avait quelqu'un qui était pro de l'email, quelqu'un qui était pro des quiz, quelqu'un qui était pro de trucs. Et moi, ce que je faisais, c'est que bah, j'achetais les formations de tout le monde, je suivais les formations de tout le monde, sur toutes ces parallèles, en fait, ultra spécifiques. Alors là, te retrouver les noms, je ne sais plus. Mais en gros, c'est OK. Là, on a une personne qui est boss de ce sujet, bah, je prends sa formation. Parce que ça va être la meilleure pour me former sur ce sujet parce qu'elle l'a poncé à mort, tu vois. Les emails, paf. Ouais, les quiz, paf. Et après. Après, je sais. Ouais, non, je sais plus parce que maintenant, j'achète. Enfin, pendant des années, j'ai acheté des formations et je regardais des petits bouts selon mes besoins, tu vois. Et je saurais même plus te dire tout ce que j'ai fait, quoi.
Ça marche. Y a pas de souci. Bah, c'est déjà super que tu nous as donné un nom principal. Et par rapport à cette vibe copywriting US, etc., ça change totalement de contexte, mais on reste quand même dans cette vibe-là. Est-ce que tu es partisan de El Famoso Conseil qui consiste à copier à la main des pages de vente à l'ancienne, tu sais, des anciennes lettres de vente, des trucs comme ça? Moi, j'ai essayé. Je te le dis honnêtement, j'ai pas trouvé ça avec beaucoup de transferts sur mon activité actuelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté?
Je l'ai fait.
Ok.
C'est vrai qu'il y a un gars qui fait ça aux États-Unis. Je sais plus s'il fait encore ce truc-là. Je l'avais suivi, je n'avais pas pris sa formation, je ne sais plus comment il s'appelle, mais son
Ouais.
programme, c'était ça, c'est je t'envoie un truc par jour et tu le copies à la main, tu vois. Je trouvais
Ouais,
ça
j'imagine.
pertinent. Je l'ai fait.
Ouais.
Moi, je copiais. Au tout début, j'avais copié des pages de vente de Stan, tu vois, par exemple. Et. Bah, quand tu as gratté 30 pages, au bout d'un moment, tu as mal à la main. Et est-ce que tu es meilleur en copywriting? T'as capté des trucs, ça c'est
Ouais,
clair.
ouais.
Ça permet de capter des trucs. Est-ce que c'est la façon la plus rapide et la plus efficace d'apprendre le copywriting? Je suis pas sûr. Tu te fais quand même un peu chier. Par contre, le fait d'en lire, moi je sais que l'un des livres qui a été les plus formateurs, plus encore que toutes les formations que je suivais à l'époque, c'était Les Lettres de vente de Robert Collier. Et tu te prends 5 ou 600 pages de lettres de vente. Et c'est masterclass sur masterclass. Et déjà,
Genre.
juste les lire, c'est déjà pas mal.
J'en ai lu une bonne partie des lettres de vente de ce livre. Et ouais, je trouve ça vraiment passionnant. En fait, au-delà de gagner de l'expérience, que plus tu vois des textes de vente, plus tu progresses, c'est dans la structure, tu captes des trucs. Dans la structure, dans les grandes idées, dans les cheminements, tu vois où l'auteur voulait aller dans cette lettre de vente. C'est assez très intéressant.
Et tu captes des formulations, des transitions, tu as plein de choses en fait que tu captes. Tu captes aussi de la ponctuation qui va être utilisée d'une manière où tu te dis, tiens, tu fous un dash et tu refous pas une putain de virgule. C'est un dash, c'est le très long là. Pour aussi vraiment adapter, aérer ton texte et le rendre plus pertinent, plus facile à lire.
Yes. Ok. Bon, vraiment sans transition, puisqu'on était sur ça juste avant, on était sur l'ancien fonctionnement d'agence. Quand tu as commencé l'agence, est-ce que tu as dû trouver des nouveaux clients spécifiques ou la transition de freelance à agence, ça s'est fait avec tes clients personnels que tu avais déjà.
C'était les clients personnels. C'était
Ok.
vraiment. Moi, j'avais plein de gens qui venaient, en fait. Pébé, on veut bosser avec toi. Pébé, on veut bosser avec toi. En fait, l'agence a été construite autour de ça. C'est OK, j'ai besoin d'une assistante, j'ai besoin d'une copywriter, j'ai besoin d'un autre copywriter et j'ai besoin d'un sales. Et c'est parti. Mais c'était les clients, en fait, qui arrivaient déjà naturellement, qui continuaient d'arriver, qui rentraient dans l'agence, tout simplement.
D'accord, ok. Et actuellement, du coup, ça c'était dans le podcast Copywriting Game avec Victor que tu parlais du fait que Copy Rockstar avait bien transitionné de agence à plutôt boîte de formation pour copywriter et du coup mise en relation. Est-ce que le côté mise en relation, c'est toujours un truc que vous faites?
On le fait pour mes potes.
Ouais.
On le fait pour mes potes. Quand on me demande, je vais quand même encore chercher. Maintenant, oui, quand on me demande, ouais, je fais. Mais maintenant, je trie vraiment beaucoup à l'entrée, puisque y a beaucoup de copywriters qui ne sont pas forcément encore au niveau par rapport aux demandes qui arrivent. Et du coup, moi maintenant, je fais aussi, je vais sélectionner, puisqu'avant, on a longtemps, même il existe encore, de temps en temps, les personnes postent dans notre communauté sur un job board des opportunités. Maintenant, quand une opportunité vient de moi, C'est moi qui vais directement contacter les personnes one par one, pour un par un, pour voir si la personne peut prendre la presta ou pas. Mais
Ok.
ouais, ça arrive.
Ça marche. Et du coup, quand c'est avec tes potes, tu prends un pourcentage ou même pas, c'est juste de la mise
Ah
en
non, non,
relation?
moi c'est que de la mise
Non.
en relation. Le but, nous, comme on accompagnait des copywriters, c'était dans notre promesse. Donc moi, j'avais pas trop envie de faire d'argent là-dessus. Je vous mets en relation, le copywriter, tu factures, tu as une mission, c'est de délivrer, sinon je te défonce. Et le client, bah, paye le copywriter, et puis voilà quoi.
Ok. Actuellement, on va dire, qu'est-ce qui est le plus gros défi dans ta boîte? Je sais que dans le podcast avec Victor, tu avais dit que c'était l'acquisition. On était
Ah,
en
putain.
janvier 2022. Est-ce que PB,
Ah, nique sa mère.
c'est toujours le cas?
Au moment où tu m'as posé la question, le premier truc qui a popé dans ma tête, c'est l'acquisition.
Ouais, je
Comme
savais.
quoi, janvier 2022, putain, sérieux?
Ouais, c'était en janvier 2022.
Changé. Ça fait un mois qu'on est en train de résoudre ça. Non, ça fait 6 mois qu'on est en train de résoudre ça, j'exagère. Mais je me suis mis à vraiment bosser dessus il y a 6 mois. Mais ça reste effectivement l'acquisition, et ça c'est challenge numéro un. Et derrière, ce qui va aussi poser problème, enfin problème, façon de parler, c'est la scalabilité du mastermind, où j'ai envie de plus, mais où pour maintenir sa qualité, je suis obligé de garder moins de membres, tu vois. Donc ça va être augmenter les tarifs, mais en même temps, je veux pas que ça devienne non plus un mastermind à 20 000 balles par an, c'est pas le but. C'est pas du tout le positionnement qu'on a. Donc, c'est acquisition, et ensuite conversion de cette acquisition, quoi.
D'accord. Bah, au niveau de l'acquisition, petite question que je me pose, la taille de ta liste email pour copier, c'est combien à peu près?
Et bah là, en moyenne, on est en dessous des 2 000 personnes.
D'accord. Ok. Bah putain, avoir en prévision possiblement plus de 12 000 balles avec une liste à moins de 2 000, c'est que c'est engagé, hein.
Bah, ouais, en fait, si tu fais le calcul, ça dépend, on va voir. 12 000, si je le divise par 2, 300, 300, puisque nos offres sont dans ces tarifs-là. 12 000 divisé par 300, ça fait 40 ventes. C'est pas
Ouais.
déconnant.
Ouais, c'est pas déconnant, effectivement.
Tu vois,
Effectivement,
c'est quelque chose
effectivement.
qu'on peut. Nous, en général, quand on fait un petit lancement, on est entre 20 et 60 ventes.
Ok. Ok, moi c'est. Je suis en train de comparer. Je suis en train de comparer ça à certains chiffres que j'avais fait. Ouais, c'est vrai que c'est. Ok, non, c'est pas déconnant, effectivement. J'avais. Après, ça
Ça
dépend
dépend.
les tarifs des offres aussi. Les
C'est ça.
formations Copy Rockstar, ça tourne aux alentours de combien? Le mastermind, je sais que c'est high ticket, c'est très high ticket.
Ouais.
Mais le formation normale.
Formation, on démarre à 12 balles, mais bon, c'est un outil. Le prix moyen, il est à 300 balles.
Ouais.
On a notre formation en consulting qui est à 150 en ce moment. J'ai pas trop envie de l'augmenter, et en même temps un petit peu. Parce que là, on se questionne justement sur la valeur perçue, où les gens se disent, bon, juste 150 balles, ça doit pas être foufou, alors qu'elle est quand même chamée, et les gens nous le disent. Donc on va peut-être passer le prix aussi à 300 balles. Et sinon, c'est dans les 300. Après, on en a une autre qui est à 700, 800, un truc comme ça. Et ensuite, on dépasse les 2 000.
Ok. Pour revenir à la problématique de l'acquisition, encore et toujours, tu me dis que ça fait 6 mois que vous bossez sur ça, genre vraiment en grosse priorité. Ton focus au niveau de l'acquisition, c'est du coup, je suppose, le contenu de ton côté,
C'est
majoritairement,
ça.
LinkedIn, Instagram.
Instagram en priorité.
Priorité?
Vraiment, en 2023, j'avais priorité de péter Instagram. On n'y est toujours pas, mais il nous reste 2 mois pour péter Instagram, et on va le faire. LinkedIn en deuxième, même si j'ai plus de monde qui me suivent sur LinkedIn, puisque j'ai 6 000 personnes sur LinkedIn. Mais je suis un peu perdu sur LinkedIn en ce moment. Je dois t'avouer
Ouais.
qu'à une époque, je faisais des trucs, ça marchait. Aujourd'hui, ça marche moins. Je mets aussi beaucoup moins d'énergie dedans. Tu vois, je commente pas les posts des autres, je parle pas aux gens. Je fais mon post, je me prends pas la tête. Aujourd'hui, l'algo, il met beaucoup. Alors, c'est pas la faute de l'algo, mais l'algo met beaucoup en avant tout ce qui va être storytelling et choses comme ça. Et c'est pas du contenu que je fais, donc là je joue pas le jeu de l'algo, donc forcément j'ai pas les résultats que je veux, faudrait que je le fasse, mais ça prendrait plus de temps et c'est pas ma priorité. Ce qui est ma priorité, c'est Instagram. Et du coup là, Instagram, bah 6 premiers mois de l'année, c'était OK, créer mon système de création de contenu pour que ça me fonctionne, pour que ça me convienne. S'assurer que ça apporte des résultats. Ça a commencé à apporter des résultats plutôt chamés. On a une croissance faible, mais stable et qualifiée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, on est passé en phase 2 de cette création de contenu avec on va faire péter les réels à mort.
D'accord. Donc en gros le truc numéro un que tu voulais, c'est pas forcément avoir plus d'emails en pourcentage de ton audience, puisque en fait, tu as déjà quasiment 100% des emails comparés à ton audience Instagram. En gros, c'est juste plus d'abonnés, quoi, techniquement.
Plus
Ok.
d'abonnés pour avoir plus d'emails aussi derrière. En fait, l'idée, c'est si je peux monter ma liste email à 4 000 personnes, je sais qu'à 4 000 personnes, je peux taper 1 million, tu vois.
De
Mais
CA, ce.
en dessous, ça va être
Ok.
chaud.
Ok. Mais c'est un truc que je me disais en regardant tes réels. C'est pas que c'est ma spécificité. Jamais la vie, je me définirais comme ça. Mais en tout cas, on va dire par exemple, dans l'ancien business street que j'avais, j'ai toujours eu beaucoup d'emails en comparaison à mon audience pour donner une idée sur ma chaîne street actuellement, enfin, qui est devenue ma chaîne tout court où je parle de business actuellement. J'ai 1000 abonnés. Et j'ai 850 emails, tu vois. C'est quasiment 85% de mon
Ouais,
audience.
c'est clair.
Bah, ouais. Et ça, je pense que c'est dû aussi au fait que je fais très souvent la promotion de lead magnet. Mais sur Insta, à chaque fin de réel, si tu faisais la promotion d'un lead magnet, je ne sais pas si vous en avez, mais ce serait des dizaines d'emails en plus par semaine, large, même peut-être par jour, en fait, en fonction du trafic. Je ne sais pas si tu y as pensé, mais ce serait.
C'est vrai. C'est pas rentré dans la phase 2 de la stratégie, ça va rentrer dans la phase 3, je pense, de la stratégie quand j'aurai plus bossé. Là, le but c'était de sortir des réels et
Ouais.
ensuite je vais faire des réels qui vont être optimisés. Tu vois, nous on y va
D'accord.
par étapes. Première étape c'était créer des contenus, deuxième étape c'était passer au contenu vidéo, troisième étape ça va être faire des trucs qui sont chambés. Et
OK.
nous, moi je suis contre les lead magnets à titre personnel. Par
Ouais.
contre, envoyer sur ma liste, oui, c'est un truc qu'il faut que je rajoute absolument en appel à l'action.
Ça marche. Mais du coup, pourquoi t'es contre les lead magnets? C'est politique ou
Ouais, c'est politique. Contre les lead magnets. Non, j'aime pas les lead magnets pour une
Ouais.
raison très très simple. C'est que les gens vont télécharger un lead magnet pour le lead magnet. C'est-à-dire qu'ils vont le télécharger, ils vont le foutre dans un coin de leur ordi, ils vont jamais l'utiliser ou ils vont l'utiliser, mais 90% des gens vont pas l'utiliser. Et super, ils ont le lead magnet. Tu as leur email, c'est bien. Maintenant, tu as des gens qui vont être moins qualifiés parce qu'ils sont là pour le lead magnet. Moi, je veux des gens qui sont là pour moi. Je veux des gens qui veulent me suivre, moi. Je veux pas des gens qui veulent une checklist du copywriting, en fait. Ça, ils peuvent la trouver chez d'autres personnes. Par contre, mes emails à moi, ils peuvent les trouver uniquement chez moi. Et c'est ce qu'on commande aussi à nos clients. Et c'est pour ça que nous, notre appel à l'action, c'est en fait notre lead magnet, entre guillemets, c'est rejoins mes emails. Donc nous, ça s'appelle, c'est la newsletter. On appelle ça une newsletter parce que les gens aiment le mot newsletter, même si moi, j'aime pas trop. Rejoins la newsletter, la pensée opposée. Tu vas recevoir mes emails toutes les semaines pour tel objectif, tel objectif, tel objectif. Et les
Ouais.
gens te suivent pour tes emails. Donc tu sais que tu vas avoir leur attention dans tes emails. Donc tu sais que tu vas pouvoir leur faire des offres et qu'ils vont les voir.
Je suis d'accord, mais du coup, là, tu pars du principe que le lead magnet, c'est une petite fiche récapitulative, bateau, etc. Alors que techniquement, il y a pas mal de gens qui l'oublient, mais un lead magnet, ça peut être une formation gratuite où les gens la suivent pour toi et au final, tu ne fais que créer plus de. Genre, lead magnet, c'est pas. Je sais pas, mais en tout cas, je pense dans la niche du copy, ça serait peut-être intéressant, non, de faire une formation gratuite en lead magnet.
Ça se teste. Maintenant, moi, le
Ouais.
gratuit, bah, j'aime pas ça non plus.
Je sais.
Le gratuit, c'est sur Insta, sur LinkedIn, où je donne tout. C'est dans
Ouais.
les formations, mais entre les deux, pour moi, c'est de la conversion. C'est je te provoque des déclics, je te donne des nouvelles idées, mais je te donne pas du contenu type, tiens, une formation pour faire X. C'est payant. Pourquoi? Un, parce que je veux que tu l'appliques, parce qu'on sait tous que le gratuit, à moins d'être vraiment déter, c'est-à-dire une minorité de la population, l'appliquera pas. Et deux, encore une fois, c'est toujours cet élément de les gens vont l'avoir téléchargé pour la formation. Pas garanti qu'ils la suivent. En tout cas, tu as une déperdition. Et moi, je veux juste qu'ils suivent mes emails, quoi.
Ok, putain, c'est un schéma de pensée que j'avais rarement entendu, mais qui est au final très intéressant, puisque tu prends moins d'emails, mais oui, ils sont plus qualifiés, tes
C'est
emails.
ça. Exactement.
C'est sûr et certain.
Parce que ouais, on le paye. Ça, pour le coup, on le paye cher. On a moins d'emails que ceux qui ont des lead magnets. Ça, c'est clair.
Ouais, bah oui, bien sûr. Et ouais, putain, ok, d'accord, c'est comme ça que tu raisonnes, c'est très intéressant. Parce que, après, ouais, forcément, ceux qui ont des lead magnets comme ça, souvent aussi leur lead magnet s'est tourné en mode tunnel. Et ça fait aussi peut-être des ventes en automatique, mais
Potentiellement.
potentiellement. Mais ok, d'accord. Et non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout sur la partie agence. Je vais passer à la dernière partie du podcast que j'ai appelée sobrement l'œil de l'expert. Bon, j'ai pris le nom qui me paraissait le plus stylé. Attends, d'ailleurs, est-ce que ça filme encore? Ouais, carré, merci. J'ai posé la question à mon poteau qui fait du montage dans le salon.
Ok.
Tout va bien, ça filme encore. J'ai stressé depuis tout à l'heure parce que j'avais pas tourné le retour de la caméra. Je voyais pas, mais ça filme
Ok.
encore. C'est parfait.
Parfait.
Pour passer à la dernière partie, est-ce que, déjà pour contextualiser, normalement, alors si tu es toujours dans. Si, en tout cas, si tu avais bien compris le thème, c'est une relecture de ta part d'un mail que tu as choisi. Est-ce que y a un mail que tu as choisi en particulier pour faire cette petite relecture?
Ouais, j'ai pris le dernier que tu m'as envoyé là, du coup. Celui que tu m'as envoyé cette nuit ou ce matin, je sais plus.
Ouais, cette nuit exactement, j'avais des idées pour le podcast. 3h du matin, j'étais au taquet.
Ouais.
Et ok, bah, je vais le mettre sous les yeux. Et aussi en description pour les gens qui regardent le podcast sur YouTube, et enfin en description du coup en format texte pour les gens qui ne le regardent pas sur YouTube, bah carrément je te laisse faire une relecture comme tu la ferais d'habitude pour, je sais pas
Ok.
moi, pour les membres de ton mastermind, j'en ai aucune idée. Bon, du coup, j'avais dit que je mettrais un lien en description pour les gens qui veulent suivre en même temps la relecture de PB dans le podcast, mais au final, c'est beaucoup plus simple. Je mets la relecture complète de PB sur mon site. T'as juste à aller dans le premier lien en description du podcast, tu cliques et tu peux visionner sa relecture. C'est encore une fois, j'ai l'impression de dire ça tout le temps, mais c'est un truc qui vaut super cher. Une relecture de mail de copywriting, un mail de vente qui plus est, pas de la simple rédaction, c'est quelque chose de super super rare. Tu peux chercher sur YouTube, il n'y a quasiment pas de contenu gratuit à ce sujet-là. Et surtout de la part d'un mec aussi chaud que PB dans ce domaine-là, c'est extrêmement rare. Donc voilà, je te laisse cliquer sur le premier lien en description pour visionner l'analyse de PB par rapport à mon mail de vente. Et sur ce, on se retrouve directement pour la suite du podcast. Bon, c'est nickel. Non, c'est super intéressant. Je ne me rendais pas compte hein, de tout ce qu'il y avait à corriger. Alors là, après, t'es allé quand même assez dans
Ouais,
les détails.
j'étais loin,
Ouais,
franchement, ouais.
mais c'est ce qu'il faut. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir de me faire taper sur les doigts comme ça. C'est parfait. Ça
Ok.
me permet de progresser en plus. Ouais, c'est quelque chose qui est rare, très dur à trouver, des analyses d'emails comme ça. J'ai vu que Benoît et Joseph le faire, et vraiment occasionnellement gratuit sur YouTube. Donc, merci infiniment à toi d'avoir pris le temps de faire ça.
Avec plaisir, c'était marrant.
Je crois que c'est la fin du podcast, si je dis pas de bêtises. J'ai à peu près traité tout ce que je voulais traiter avec toi, bébé. Et voilà, bah merci infiniment pour cet échange. C'était super enrichissant.
Avec
Et
plaisir,
ouais.
vraiment, toujours avec plaisir. Merci pour tes questions, merci pour ton invitation et merci aussi pour ton temps.
Merci beaucoup. Je mettrai tous les liens de PB évidemment en description du podcast, Instagram, LinkedIn, n'importe. Je mettrai tout. Copy Rockstar.
Trop bien.
Je pense que vous avez pu voir que c'était quelqu'un de très compétent. N'hésitez pas à passer par lui pour vos missions de copywriting ou pour aller vous former chez lui. Ce que je vais d'ailleurs m'empresser de faire, si tu peux m'envoyer le lien de la formation email. J'ai changé d'avis. C'est email que je veux suivre maintenant.
Ok, bah en plus on fait un lancement cette semaine.
Ah bah, je vais attendre le lancement cette semaine du coup, mais
Ah
oui,
mais on
ça
a
c'est.
commencé. Ah
Ah
putain, faut que
bon?
je fasse un email d'ailleurs. Ouais, on ferme les portes dans une semaine. Attention.
Bah c'est parfait. Je suis un nouvel inscrit, je suis close. Donc
Trop
voilà.
bien.
Ok.
Excellent.
Et Ouais, non, nickel. J'espère que tu vas bien te remettre de ta petite maladie quand même. Au
Ouais, bah j'espère aussi, ça fait un mois et demi que je tousse, j'en ai un peu marre, ce serait bien que ça s'arrête, ouais.
Ouais, on est à peu près tous à la même case, je viens à peine d'en sortir.
Ah putain, c'est l'enfer.
Ouais. Sur ce, bébé, merci beaucoup.
Avec
Et
plaisir.
puis voilà, hein, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, like, et à la prochaine.
Yes, donnez de la grosse force au podcast, à l'interview, mettez ces 5 étoiles, faites des gros commentaires et des bisous.
Plein de bisous.